7h, 9h, plus près de toi.
On est arrivé tout à l'heure ce matin, à la radio. Sur le chemin, j'ai croisé la peur et l'ennui, la colère et l'indignation. Le type trop bourré pour rentrer, le type trop agin pour sortir. J'ai croisé les taxis qui repartaient à vide, les RER qui arrivaient à plein. J'ai croisé les pousse-mégots, les ramasse-miettes. J'ai croisé l'espoir ce matin sur le chemin de la radio. Avec les chœurs de l'armée rouge. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes choriste, vous étiez officier dans l'armée rouge.
Oui.
Et maintenant vous êtes choriste le matin.
Le matin, je suis choriste.
Qui écrit vos dialogues là?
Là, c'est Hugues, un ami.
Un ami qui vous a écrit, c'était.
Ouais, c'est un copain.
C'est pas un talent, c'est pas une plume le mec.
C'est pas une plume, mais il est pas cher.
Ok, allez, le journal de Thierry Paret. Bonjour à tous.
Bonjour, le bonjour. Paris Saint-Germain.
Oh, le menteur, il était là depuis déjà une heure, il fait semblant d'arriver. Il fait semblant que c'est pas lui. Les gens.
Ah, je vous ai bien dit. Le Paris Saint-Germain est donc en quart de finale de la Ligue des Champions de football. Quasiment, hein. Tout peut arriver évidemment, mais on voit pas trop comment le PSG peut passer au travers après avoir réalisé un sans-faute hier soir au Parc des Princes, au match aller, donc face à Barcelone. Les Parisiens sont imposés 4-0, deux buts de Di Maria, un de Draxler, un de Cavani. Aucune équipe n'a rattrapé un 4-0 en Ligue des Champions. Ça ne s'est jamais vu, donc aucune raison que ça n'arrive.
On dit 4-0.
Match retour en Espagne le 8 mars, toujours hier soir, Benfica a battu le Borussia Dortmund 1-0. Ce sera donc dur au match retour quand même pour les Portugais sur le terrain allemand. Suite des huitièmes de finale ce soir.
Dis-moi,
avec,
si tu fais tout sur le foot, vous me rappelez hein, non, la fin des infos.
Non, mais il y a du foot ce soir aussi. Il y a deux gros chocs quand même. Real Madrid contre Naples. Et puis Bayern Munich contre Arsenal. Les autres rencontres, ce sera la semaine prochaine, notamment Manchester City contre Monaco. La police des polices, à nouveau saisie pour des violences commises à Aulnay-sous-Bois, alors que François Hollande a redit hier à Aubervilliers sa volonté que la justice passe. Un ami du jeune Théo affirme dans l'Obs avoir été passé à tabac une semaine avant l'interpellation musclée du jeune homme de 22 ans. Et il met notamment en cause le même groupe de policiers, enfin au moins un d'entre eux. Et toujours selon l'Obs, le jeune homme n'a pas porté plainte parce qu'il venait de trouver un travail et qu'il ne voulait pas risquer de le perdre. Après François Fillon, Thierry Soler, selon le canard enchaîné du jour, l'organisateur de la primaire de la droite, porte-parole de François Fillon, député des Hauts-de-Seine, fait l'objet d'une enquête préliminaire, soupçonné entre autres d'avoir omis de régler une partie de ses impôts sur le revenu de 2010 jusqu'à 2013 et sa taxe foncière aussi sur cette dernière année. Thierry Soler a annoncé son intention de porter plainte en diffamation contre le canard enchaîné, affirmant avoir toujours déclaré ses revenus et être actuellement à jour de ses impôts. Un caillou de plus donc dans la chaussure de François Fillon, indirectement. François Fillon qui va déjeuner aujourd'hui avec Nicolas Sarkozy ce midi. Les 17 000 électeurs de la primaire d'Europe Écologie Les Verts sont de nouveau appelés par le parti écologiste à donner leur avis durant ce vote qui se déroule sur Internet jusqu'à demain jeudi. Ils doivent se positionner sur les discussions entre Yannick Jadot, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon. Premier test dans les relations entre Donald Trump et Israël. Benjamin Netanyahou doit être reçu à Washington aujourd'hui. Pendant sa campagne présidentielle, Donald Trump s'est présenté comme le meilleur ami de l'État hébreu. Mais depuis, la colonisation israélienne s'est accentuée sur les territoires occupés et le nouveau président américain a émis des réserves sur cette dernière. Dans la douleur, le CETA, le fameux traité commercial de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, doit être soumis aujourd'hui, après deux jours de débat, au vote du Parlement européen. C'est un texte qui est toujours très contesté, notamment dans son volet climatique. Plusieurs ONG souhaitent par exemple s'assurer de la neutralité carbone du CETA, alors qu'on sait par expérience qu'une libéralisation des échanges commerciaux se traduit souvent, entre autres dans les transports, par une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Vote au Parlement européen donc aujourd'hui, puis ensuite ce sont les parlements nationaux qui voteront ce fameux traité CETA. J'en avais parlé il y a quelques jours, c'est aujourd'hui que l'Inde va tenter de lancer un nombre record de satellites à bord d'une seule fusée, 104 satellites précisément. Le record, pour l'instant, il est détenu par la Russie qui a lancé, c'était en 2014, avec succès, 39 satellites d'un coup. On termine avec le sport, les mondiaux de ski. La France a été sacrée championne du monde de l'épreuve par équipe en battant la Slovaquie hier à Saint-Moritz en Suisse. C'est une nouvelle discipline du ski alpin qui est apparue au championnat du monde en 2005 et qui sera pour la première fois au programme olympique en 2018 en Corée du Sud. Et elle oppose en fait des skieurs, hommes et femmes, sur des slaloms parallèles.
Merci Thierry. Les sports mondialisés, les sports connus, le football et le ski font-ils de l'ombre à des sports plus locaux, plus poétiques et dont on parle peu? Tout de suite avec mes invités. Bonjour Hakim Goulard, bonjour Benji Dumorel. Hakim Goulard, vous êtes président de la Fédération de badminton Les Yeux Bandés. Et quant à vous, Benji Dumorel, vous êtes président de la Fédération de ballonnée. La ballonnée, ce sont des sports, je sais qu'en ce moment les mondiaux ont lieu à Tours.
Hein, c'est à Tours, badminton, enfin, pas exactement à La Riche, Soleil, c'est une...
À côté de Tours.
À côté de Tours, c'est dans une zone commerciale.
C'est une zone commerciale, on ne dira pas les marques, il y a Lidl, Peugeot, voilà, Renault qui financent. Voilà. Alors vous me disiez, on en parle peu pour le moment, rien à la télé sur le badminton des Yeux Bandés. Il y a une belle indignation chez vous. Allez, super, oula.
Voilà, oh, mais non, super. Mais pourquoi voilà. Mais...
Très bien, alors on reviendra vers vous. Benji Dumorel, la ballonnée, c'est si on se prend la balle, on est...
On renvoie la balle avec le nez.
Vous en avez reçu.
Dans le pif, oui. Alors pour le moment, on est dans les salles des fêtes parce qu'on n'a pas pu avoir le gymnase.
C'est à cause du foot, vous me disiez. Le foot nous prend tous les gymnases. Et tous les spectateurs aussi.
Le foot nous bouffe tout, avec ou sans liaison. Et la ballonnée est un sport qu'on essaie d'exporter un peu plus loin, de passer de département.
Alors, il vous prend non seulement les stats, mais les spectateurs, parce que les derniers champions de ballonnée ont fait trois entrées.
Trois entrées, dont ma mère et ma femme.
Et quatre sorties. C'est-à-dire qu'il y a un des joueurs qui a dû repartir avec les gens.
Qui a dû partir, qui a eu mal au nez.
On y reviendra. Hakim Goulard, je vous voyais indigné par le temps de parole que j'ai donné à la ballonnée.
J'aimerais bien savoir où est mon verre.
Oui, alors le verre. Très bien. Donc le badminton, les yeux bandés, c'est un badminton où on ne voit pas le volant, on doit le deviner sur les méthodes de
kung-fu. On ne voit pas le filet et le but c'est de capturer son adversaire en l'attirant vers le filet.
Alors on a le droit de porter un couteau au badminton, les yeux bandés,
je sais. Tout à fait, on a le droit de porter un couteau.
Et Bernard Lavillier, qui était champion, m'a dit j'y vais à cause du coup de là que j'ai le droit de garder.
Il n'a pas dit ça exactement, il a dit j'aimerais bien y aller avec.
Ah si, j'ai
oui, mais pas avec ce ton-là.
Je vous sens indigné, Benji Dumorel, de la ballonnée.
Oui, parce que nous, on travaille beaucoup pour travailler sur le nez. On met des bouchons de liège dans le pif pour pouvoir travailler son nez. Et en fait, à l'arrivée, vous ne m'écoutez
Tito,
pas.
Tito, je sens que vous vous en foutez de ce débat.
Ouais,
je
complètement. Je vous parle. Ce sont des sports de rigolo, ça.
Voilà, non, c'est vraiment
je suis scandalisé, pas un mot sur le curling à crampons.
Ok, baston général, à tout de suite.
La ballonnée.
Nova.
7h-9h, Edouard Baer.
Tout ça pour ça?
Vous avez désannoncé, Armel, le morceau ou pas?
Ah non, tiens, François and the Atlas Mountains avec le titre Le Grand Dérèglement.
Je trouve ça très clair quand vous désannoncez, c'est vraiment, on est au cœur de l'information, mais en même temps, c'est pas didactique. Vous n'êtes pas en train de nous écraser votre savoir, vous êtes là, vous partagez, c'est vraiment, c'est très 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 joli.
C'est simple.
Pouvez-vous m'avancer une somme d'argent? Oui, c'est ça. Alors, le grand plateau des connoisseurs de l'actualité. Ils sont ouverts à tout, ils sont curieux de tout. Ils font partie du grand tout. Ce sont
les connoisseurs.
Les connoisseurs de l'actualité de l'information. Autour de Marie Misset, bien sûr, notre spécialiste, et de Thomas Baumgartner, il y a aujourd'hui Charlène, Atmen, Tito et bien sûr...
François Bayrou.
Et François Bayrou, ainsi que Armel M. Alors, qu'est-ce que vous avez vu dans la presse ce matin ou sur vos tablettes?
J'ai regardé le journal La Croix.
Oui.
C'est vraiment très intéressant.
Oui.
Et j'ai vu que la Chine accroissait sa production. Donc, ça ne change pas.
Non, on va aller faire vivre ce blanc derrière. C'est quelle page dans La Croix?
C'est la page 11.
Montrez-moi la page 11.
11, là, voilà.
Oui. Non, non.
Si, c'est là.
Où ça?
Monsieur, c'est là.
Mais c'est tout petit.
Oui, c'est petit.
Mais c'est la Chine.
Et vous n'avez rien d'autre à en dire. Il y a aussi écrit que Jean-François Caranco, le nouveau gendarme de l'énergie. Et ça, on n'en parle pas. Il y a une omerta médiatique. Atmen, qu'est-ce que vous avez?
Oui. Moi, je voulais parler, c'était dans le monde d'hier, par contre. Voilà, c'est moins frais, mais c'est d'hier.
Ne le dites pas.
Si, je le dis, parce que je suis honnête.
Ne soyez pas honnête. À quoi ça vous mènera, l'honnêteté?
Moi, c'est un journal d'aujourd'hui.
Très bien.
Un Fayot. Oui. Les babouins, il ne leur manque que la parole. Alors les babouins ont la même en fait c'était le Figaro, il me dit de
bon dire. Alors écoutez,
les babouins, ils ne leur manquent que la parole. Ils ont les organes phoniques pour pouvoir parler, mais ils n'arrivent pas à parler. Alors ils font des vocalises, et il paraît que dans quelques temps ils pourront parler. Alors on a pu isoler leur vocalisation I,
ah et waouh. Ils font beaucoup de waouh, les babouins. Et on pense que dans quelques temps, bon, ils pourront parler.
Alors les 20 babouins ans, progressent dans le langage. Oui.
Alors, 20 ans pour des chercheurs américains pour entendre des babouins dire i, aou, waouh, moi je l'aurais fait. Hein, parce que
quand même... ça, c'est votre petite chute.
Oui, non, c'est pas terrible quand même.
Donc, 20 est-ce ans... que dans l'avenir, il est fort probable, bien sûr, que nous serons remplacés par des robots,
bien sûr.
Mais il n'y aura peut-être plus que des rats, des fourmis, des babouins des pieuvres font... et de l'intelligence artificielle.
Alors, quelqu'un va faire le babouin qui fait aï, aou, parce que je ne peux pas le faire. C'est très important
d'avoir. Pourquoi
parce que je voudrais qu'on ait une illustration sonore pour dire que c'est 20... Voilà. Écoutez ça. Voilà, 20 ans de recherche. 20
voilà,
ans de recherche.
Merci beaucoup.
Voilà, pour
Marie Missé, qu'est-ce qui vous a frappé Marie
D'abord,
Missé, l'honneur de cette rédaction.
Cette, oui. Information. Parce que les babouins vont bientôt disparaître, c'était dans Le Monde hier.
Mais peut-être pas les mêmes.
C'est le Figaro contre
le monde. C'est pas
dans Le Monde, c'est dans Le Figaro.
Vous voyez que les journaux de droite sont plus optimistes.
Ils vont disparaître, merde, merde.
Sinon, il y a une très belle leçon de politesse dans le Canard Enchaîné du jour. Qui n'a pas de nouvelles révélations sur François Fillon? Canard Enchaîné, belle leçon de politesse. Un courrier qu'on leur a adressé, qui était celui-là, c'était le 29 janvier. Monsieur et Madame Bernarcet, après lecture des articles concernant François Fillon et son épouse, dans le numéro 5022 du Canard Enchaîné, tiennent à dire à la voyoucratie journalistique de cette feuille de chou qu'ils ont à son égard une réserve inépuisable de mépris. Premier courrier. Deuxième courrier, celui-là daté du 3 février. Monsieur et Madame Bernarcet, plus amplement informés en quelques jours sur l'affaire Fillon, retirent les méchancetés qu'ils ont adressées au Canard Enchaîné par carte de visite en date du 29 janvier 2017 et le prix d'agréer l'expression de leurs sentiments distingués.
C'est des vrais courriers que reçoit le Canard Enchaîné?
C'est classe, c'est sur carte de visite.
Moi j'ai reçu une lettre aussi, parce que bon, j'ai des contacts.
Oui, Arnaud.
Et c'est Madame Groschin.
Oui.
Qui me dit qu'elle passe toujours à côté de l'Assemblée nationale et qu'elle n'avait pas vu Pénélope Fillon.
Et elle vous l'a envoyé à vous
Bizarrement.
Même Groschin.
Parce qu'elle sait que vous travaillez à la radio, donc vous avez accès aux médias.
Non, elle ne me connaît pas.
Et que vous êtes illuminati.
Elle me connaît pas.
Thomas Baumgartner. Thomas Baumgartner, oui. De mieux en mieux ce matin.
Là, il y a 10 jours, on a parlé des manifestations en Roumanie. Il y avait 600 000 personnes.
Oui.
Ben, ils ont gagné.
Alors, ils ont réussi à faire plier le gouvernement
voilà,
roumain.
Ils ont
qu'est-ce qu'ils voulaient obtenir?
Les gens les peinent pour abus de pouvoir. En fait, il y avait un décret qui allait passer et qui allait quasiment autoriser un certain niveau de corruption. Et donc, il y a eu des manifestations, ils ont gagné. C'était plus facile si le décret passait.
Ils s'auto-amnistiaient, le gouvernement s'auto-amnistiait.
En quelque sorte, jusqu'à une certaine mesure de corruption. Et en même temps, ce qui est marquant, c'est que la population continue de manifester encore aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est en train de s'inventer en ce moment en Roumanie. Et les partis d'opposition ne bougent pas du tout. C'est vraiment la population qui est en train de prendre. Le pouvoir d'une sorte
c'est
de
c'est une sorte de nuit debout qui y a derrière tout ça. Il y a des gens qui il y a des leaders.
Il y a pas de leader marquant qui se détache. C'est vraiment la population. Il y a une forme de laboratoire démocratique qui serait en train de se mettre en place en ce moment en Roumanie. Et ce qui est différent des autres révolutions qui ont eu lieu ces dernières années, c'est qu'il y a le spectre de Ceausescu et du communisme de Ceausescu. Et d'ailleurs, cette histoire de corruption, c'était vraiment le spectre de la securitate qui apparaissait à nouveau. Donc voilà, c'est plutôt le début de quelque chose qu'une fin avec cette victoire.
Petru Daoshu, vous êtes écrivain roumain ici en exil en France, vous êtes à la base de ce mouvement.
Yop.
Non, on annule cette interview. D'autres choses, Tito, qu'est-ce que vous avez ce matin? Thierry Paret, Charlène, rapprochez-vous tous
alors,
du micro.
Hier soir, c'était la soirée
c'est
du slip.
Ouverte.
C'est-à-dire que quand on veut draguer quelqu'un, on monte un peu son slip, on baisse un peu son pantalon, comme ça on sait qu'on est célibataire. Et donc hier soir, moi j'étais au Cirque Romanès pour voir jouer le collectif La Bohème, c'était vachement bien. Et j'ai croisé Atmen après justement à la soirée mondaine, on a bu du vin chaud à la cannelle ensemble, c'était vachement bien.
La soirée du slip, c'est une invention personnelle?
Non, pas du tout. Maintenant, les gens, pour montrer qu'on est célibataire, on baisse un peu son pantalon,
vrai,
on marche en montrant son slibard.
On montre ses caleçons. Ça vaut pour les deux sexes ou pas?
Pour la Saint-Valentin, ouais, on fait bien. T'as plus besoin de parler aux gens aussi.
Je l'ignorais. Ouais. Thierry Paret.
Oui, non, si vous cherchez du boulot, et je pense surtout à Tito, Atmen ou Arnaud, il y a un boulot de tatoueur qui est recherché par le club de football américain de Philadelphie. Oui. Ils recherchent un tatoueur pour leur staff, un taf à temps plein.
Mais moi, je ne sais pas dessiner.
Un boulot à temps. Ah, faut dessiner un serpent. Faut savoir dessiner des serpents, qui est le symbole du club, quand même, c'est important. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'ils cherchent ce mec vraiment à temps plein dans le staff de.
Moi, je sais dessiner des saucisses.
Il y a un masseur, un kiné, il y a peut-être un
entraîneur, adjoint, etc. Ouais. Et un tatoueur maintenant. Il y aura
un tatoueur.
Moi, je tatoue les cochons. Je les fais bronzer. Les cochons, ils deviennent tout roses. Après, je leur fais des tatouages de biker, tu sais, sur le devant, sur les avant-bras. Quand ils se baladent.
Une vie. Tito, Charlène, arrêtez avec cette musique qui repart chaque fois. Mais c'est trop produit l'émission, on va croire que c'est une vraie radio.
Dans le monde animal, toujours on parlait des babouins tout à l'heure. Moi j'ai vu qu'en Nouvelle-Zélande, un groupe de baleines s'est échoué. Et c'est un peu la course contre la montre pour les autorités là-bas. Parce qu'il faut vite les enlever de là car elles risquent d'exploser sur la plage. donc quelques 600 baleines qui, par les gaz de combustion et de décomposition, risquent d'exploser. Ça ne va pas être joli à voir.
Et c'est vrai, et les camions tournent tous les jours en ce moment, parce que ces baleines-là peuvent faire 6 mètres et 2 tonnes. Donc tous les jours, ils tournent pour... enlever les baleines et les emmener dans un parc national un peu loin. Pour... Et d'abord, il les crève, il les font exploser.
Il y a des gens qui les ont percés.
Ouais, ça, ils les font exploser et ensuite, il les dégage et ça pue.
Très, très mignon, cette information. Voilà, voilà ce tour de table d'une vulgarité indicible, des infos erronées, des approximations, des rires gras pour en arriver à ce moment très mignon. Des baleines vont exploser sur la plage. Il y en aura partout. Faites quelque chose, Armel. Vous n'avez pas une pub, un disque, un truc
que
les gens...
J'ai une très belle pub.
Ah, une belle pub.
7h, 9h, plus près de toi. Nova. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h,
9h. Il m'en reste un peu, je vous le mets quand même.
Non, mais là, je pense que les gens vont être bien réveillés après ça, quand même, non ?
Björk. Hein ?
Ah oui, la Björk, elle sait y faire. Moi, elle vient tous les matins chez moi en ce moment. Laurent, nous sommes au téléphone avec Laurent Petit. Il était temps de se pencher sur la face cachée, la face intime, la face B des villes. On connaît l'image des villes, on en entend parler par les journaux, par les conversations, la circulation, la sécurité, la santé, la propreté. Il se passe d'autres choses. Laurent Petit, vous êtes psychanalyste urbain.
Oui, c'est bien ça. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir, qu'en effet la nuit tombe sur Paris, déjà 7h25 du matin. Laurent, vous êtes appelé par des régions, par des villes, pour essayer de faire quoi au fond ? D'essayer de faire s'exprimer le non-dit dans une ville ?
Oui, on essaye de capter le refoulé, bien sûr, des villes. On essaye de détecter les névroses urbaines. Et puis on propose des traitements pour que la ville puisse... guérir de ses névroses et parvenir à son plein épanouissement d'ici 2050, si
oui,
tout se passe bien.
C'est pas tout de suite. Laurent Petit, comment ça se passe ? Vous commencez par allonger la ville sur le divan ? C'est vraiment des méthodes traditionnelles ?
Exactement. On essaie de la faire parler, en tout cas. Et on l'allonge, on essaie de la relaxer avant de lui poser tout un tas de questions sur son passé, sur ses souffrances, pour essayer de détecter déjà l'environnement familial de la ville. Ses parents, qui sont ses parents, souvent les villes ont plusieurs parents, plusieurs mères, plusieurs pères. Ça peut être des parents géologiques, des parents spirituels, voire des grands-mères, hein, des mères qui ont façonné la ville pendant des décennies. Et puis après, on essaye de voir quel trauma a vécu la ville, hein, des guerres, épidémies, crises économiques. Et puis on détecte ce qu'on appelle des PNSU, hein, des points névro-stratégiques urbains, comme des friches abandonnées, un pont, une autoroute qui traverse la ville, qui la coupe en deux. Mmh. Et on essaye de traiter ces endroits-là.
Des secrets de famille. Alors, vous, c'est quand même une psychanalyste qui n'est pas lacanienne ou freudienne. Vous êtes très intervenant. Vous n'attendez pas que la ville parle sur le divan. Vous la provoquez, vous la secouez un peu.
Oui, on la secoue vraiment. On interroge des experts, puis la population, et puis... On la presse comme un citron parce que c'est des thérapies rapides, hein, des flash thérapies, ça dure quelques mois pour essayer d'aller vite. Parce que bon, souvent les villes sont... Ça pourrait prendre des centaines d'années si on faisait le travail vraiment en profondeur, mais ça serait trop tard.
Ouais.
Le traitement arriverait dans 200 ans et...
Ça ne serait plus nous, ça serait nos enfants, nos petits-enfants, si Dieu nous en donne, bien sûr. Vous êtes déjà intervenu à Dunkerque, Marseille, Saint-Nazaire, à l'Île-de-Ré, Annemasse, aussi à Hénin-Beaumont. On en parlera tout à l'heure avec Marie-Françoise qui est à Hénin-Beaumont. Est-ce qu'il y a des villes qui vous ont frappé, que vous avez vraiment guéri ?
Ça, pour l'instant... C'est pas évident de le savoir parce que le traitement peut prendre des années. Donc pour l'instant, on a des villes qui vont mieux. Et des villes qui vont bien, il y en a en France et en Navarre. Enfin, plutôt du côté de Genève, c'est une ville qui va très bien, Genève. C'est la ville la plus en forme qu'on ait rencontrée. D'ailleurs, trop, je pense, parce qu'elle crée un phénomène d'attirance vers elle qui crée des déséquilibres urbains et routiers aux alentours.
L'île de Ré, de quoi souffrait l'île de Ré ? Je vois que vous êtes intervenu à l'île de Ré.
Oui, non, allez, attention, il y a un train qui passe, ça fait un bruit effrayant. Mais voilà, c'est bon, on avait mené le carré là-bas parce que on essaye de faire des jeux de mots pour attirer la population. Ouais. Mais de mémoire, c'est une ville, c'est une région assez plate. Je sais pas.
Le carré, oui.
Oui.
Pardon, parce que nous ne sommes pas au niveau intellectuel, on est.
Oui, bien sûr. Et puis donc, je me souviens. souviens de quelque chose d'assez plat, que tout allait bien, mais peut-être un problème de prix de l'immobilier, ce qui fait que les gens n'arrivent plus à y habiter tellement l'immobilier est trop onéreux.
Laurent Petit, est-ce qu'il y a une différence entre le fait de psychanalyser une ville française et une ville étrangère? Parce qu'il y avait non seulement Genève, mais vous avez travaillé à Tunis, à Bruxelles. Est-ce qu'on psychanalyse différemment sur le territoire français et sur un territoire étranger?
Ah, on utilise les mêmes méthodes, mais ce qui est intéressant de voir en Belgique, c'est que les gens ne sont pas du tout dans le mythe du... Ils n'ont pas d'espérance idéaliste vis-à-vis de l'homme politique, parce qu'ils n'ont pas de président, ils n'ont pas de système présidentiel. Et quand on psychanalyse la Belgique, on s'aperçoit que les Français sont vraiment restés bloqués sur le culte de Louis XIV, Napoléon, le général de Gaulle. Et
l'homme providentiel, oui.
L'homme providentiel, ça crée des phénomènes d'hystérie pendant les périodes présidentielles. Parce qu'ils croient encore au mythe du sauveur. Alors que les Belges n'y croient plus du tout, les Algériens, les Tunisiens encore moins. Et ça fait vraiment des différences au niveau des pays, c'est vrai.
Ça veut dire qu'il y a moins de nœuds, justement, à dénouer, moins de névroses, dans ce cas-là, vous pensez?
C'est moins noué en Belgique, ça va mieux. Bon, par contre, en Tunisie, en Algérie, c'est beaucoup plus dur. Hein. Enfin, la Tunisie est encore joyeuse, tandis que l'Algérie est vraiment très dépressive. Elle est à l'image de son président, je pense.
Comment soignez-vous? Vous préconisez, c'est médicamenteux, c'est chimique, ou c'est simplement en écoutant, en libérant la parole?
Ah, ça fait déjà du bien de libérer la parole, mais on propose des traitements, on appelle ça des traitements urbains, traitements architecturaux, des traitements économiques. On essaie de relancer l'économie et on imagine des traitements cathartiques, des événements collectif où les gens revivent les névroses, les traumas, mais
ça, c'est Jungien.
Des formes de carnaval.
C'est Jungien.
C'est Jungien, effectivement. C'est très Jungien, oui.
Hénin Beaumont, on va être avec Marie-Françoise d'Hénin Beaumont. Qu'est-ce que vous aviez diagnostiqué sur Hénin Beaumont?
Ce qui est frappant à Hénin Beaumont, c'est que la ville naît en 1970 du mariage forcé, je dirais, entre Hénin Liétard et Beaumont en Artois. Et Hénin Liétard, c'était une vieille fille industrielle qui était en train de fermer les puits de mine, et Beaumont en Artois, c'était une jeune vierge rurale, je dirais un village rural, et ça a été un mariage de force parce que la population n'a pas été consultée. Ouais. Et de ce mariage est né un centre commercial géant entre les deux entités, et ça a créé des phénomènes de corruption et des phénomènes de frustration dans la population qui avait du mal à rentrer dans le centre commercial géant, et ça a entraîné des positions extrêmes de la part de la population, évidemment.
Restez avec nous, Laurent Petit, on est avec Marie-Françoise de chez la friterie chez Gonzalez à Hénin Beaumont. Est-ce que vous reconnaissez...
Oui.
Bonjour Marie-Françoise.
Ah oui, bonjour.
Vous reconnaissez votre ville dans le portrait qu'on a tracé, Laurent Petit?
Oui, je reconnais tout à fait ma ville, puisque c'est carrément ça. On a eu une grande surface, des usines qui ont fermé, et puis un centre commercial proéminent. Beaucoup de chômeurs en Cadix.
Alors vous avez cet endroit qui est une friterie accessible à tous. Est-ce que c'est un lieu de réparation de la ville par les prix que vous pratiquez, par votre accueil et par la population qui est brassée là?
Bon, disons qu'à la friterie, oui, c'est un lieu de parole quand même. On discute beaucoup. Mais enfin, de réparation, je ne crois pas.
Vous croyez pas? Vous avez pris un petit morceau d'Hénin Beaumont en réparation. Laurent Petit, on peut arriver comme ça par un petit commerce, par une petite action à entamer la réparation urbaine?
Ah, bien sûr, parce que c'est des lieux de lien social. On était allé chez Marie-Françoise, c'était gay. On s'était bien amusé.
C'est important de rire.
Oui, il y avait de la bonne humeur et ça détend un peu l'atmosphère. Mais... Je sais pas comment vous appelez, les Hinonois Beaumontés, eh ben, ils sont quand même joyeux, hein, malgré tout.
Oui,
ce
alors.
On avait bien ri.
Oui, on avait bien ri. Je pense que vous n'êtes pas venu assez longtemps. On n'a pas pu vraiment être sur la voie de la guérison.
On va renvoyer Laurent Petit. On vous laisse en ligne tous les deux, car je dois envoyer le joint à le Thierry Paré. Merci Marie-Françoise. Laurent Petit, nous ferons appel à vous régulièrement.
D'accord.
Je sens que vous pouvez aider ce pays.
Mais avec plaisir.
Aller vers lui-même. Au revoir.
Au revoir.
Marie-Françoise. Au revoir Laurent Petit. Le journal de 7h30 à 7h33.
Près de 200 000 personnes devaient évacuer leur domicile en Californie, menacées par les inondations. Bah, finalement, l'ordre d'évacuation vient d'être levé. Le barrage d'Oroville, qui est le plus haut des États-Unis, menaçait de céder suite aux pluies importantes de ces dernières semaines. Les autorités ont réussi apparemment à faire baisser le niveau de l'eau. Alors, ceci dit, il y a de nouvelles intempéries qui sont annoncées sur la région. La police des polices, à nouveau saisie pour des violences commises à Aulnay-sous-Bois. Alors que François Hollande a redit hier à Aubervilliers sa volonté que la justice passe, un ami du jeune Théo affirme dans l'Obs avoir été passé à tabac une semaine avant l'interpellation musclée du jeune homme de 22 ans. Et il met notamment en cause le même groupe de policiers, au moins un d'entre eux. Le jeune homme n'a pas porté plainte parce qu'il venait de trouver un travail et qu'il ne voulait pas risquer de le perdre. Après François Fillon, Thierry Soler, selon le Canard enchaîné du jour, l'organisateur de la primaire de la droite, porte-parole de François Fillon, député des Hauts-de-Seine, fait l'objet d'une enquête préliminaire, soupçonné entre autres d'avoir omis de régler une partie de ses impôts sur le revenu de 2010 à 2013 et sa taxe foncière sur cette dernière année. Thierry Soler a annoncé son intention de porter plainte en diffamation contre le Canard enchaîné, affirmant avoir toujours déclaré ses revenus et être actuellement à jour de ses impôts. Premier test dans les relations entre Donald Trump et Israël. Benjamin Netanyahou doit être reçu à Washington aujourd'hui. Pendant sa campagne présidentielle, Donald Trump s'est présenté comme le meilleur ami de l'État hébreu. Mais depuis, la colonisation israélienne s'est accentuée sur les territoires occupés et le nouveau président américain a émis des réserves sur cette dernière. Signé dans la douleur, le CETA, le fameux traité commercial de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, doit être soumis ce mercredi, après deux jours de débat, au vote du Parlement européen. Ensuite, ce sont les parlements nationaux qui voteront ce traité. C'est aujourd'hui que l'Inde va tenter de lancer un nombre record de satellites à bord d'une seule fusée, 104 satellites précisément. Le PSG a un pied et quatre orteils en quart de finale de la Ligue des champions de football. Les Parisiens ont écrasé Barcelone 4-0 hier soir au Parc des Princes. Match retour en Espagne le 8 mars. Ce soir, dans la même compétition, le Real Madrid reçoit Naples et Bayern Munich reçoit Arsenal. On termine avec les mondiaux de ski. La France a été sacrée championne du monde de l'épreuve par équipe en battant la Slovaquie. Cette nouvelle discipline du ski alpin sera pour la première fois au programme olympique en 2018 en Corée du Sud et oppose des skieurs hommes et femmes sur des slaloms parallèles.
Mais Tito, vous sentez de nous dire les températures aujourd'hui ?
Mais oui, bien sûr, avec un grand plaisir.
Merci Galinette.
Alors aujourd'hui à Agen, entre 8 et 18, Bordeaux 7 et 18, Clermont-Ferrand 3 et 16, Montpellier 9 et 13, Nantes 6 et 16, Paris 6 et 16, attention à 7, entre 7 et 18, la meilleure température de la journée, c'est Laval. Moins 3 et moins 4 parce qu'il neige. Ailleurs, il fait soleil. Il y a quelques nuages à Papette, entre 25 et 29. Et Moscou, entre moins 2 et 11. La 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 la.
Merci Tito, c'est important de dire à Moscou, ça montre que dans les médias, Poutine est en train d'entrer partout. Bouchta, bonjour.
Bonjour mon petit Edouard, ça
Bouchta,
va ?
Bouchta, tu as entendu, on a parlé des villes tout à l'heure, la psychanalyse des villes.
Oui.
Toi tu es à Marseille, comment ça se passe ce matin à Marseille ?
Eh ben Marseille, hein, tranquille, hein. C'est pas comme chez vous, là-bas ça craint, hein, Paris. On est tranquille, quoi ?
C'est quoi la tranquillité ?
Il y a une copine...
Oui.
La tranquillité, il y a une copine, elle est venue me voir hier.
Oui.
Quoi, j'ai pas venu me voir, j'ai croisé dans la rue. Et je lui ai dit, d'habitude elle a toujours le foulard, la burqa, elle est toujours couverte, elle. Et hier, je l'ai trouvé, je lui dis que c'est devenu une décapotable, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit non, c'est pas à cause de Marine. Moi, je crois que c'est à cause de Marine qu'elle avait le foulard, parce que Marine, en ce moment, elle n'envoie que des venins et des lasers sur la télé et la radio. Alors, je lui dis c'est à cause de Marine, elle me dit non. Je dis pourquoi? Elle me dit eh ben, parce que la semaine dernière, la brigade des stupes est venue dans la cité avec des burqas, a arrêté deux réseaux, et nous, maintenant, on ne peut plus rentrer avec les foulards et la burqa dans la cité. Parce que les jeunes de la cité, si elle n'est pas la burqa, ils ne peuvent pas rentrer.
Les flics sont venus déguisés ?
Oui, en burqa. La brigade des stupes, ils arrivent avec deux burqas, comme des femmes, avec des voitures. Ils ont dit salam alaikum, ils sont rentrés, les jeunes n'ont pas fait ah ah ah, parce que d'habitude, ils font ah 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 ah, comme des mouettes.
Oui, calme-toi. Oui.
Ça veut dire, ils arrivent.
Oui.
Et là, ils ont vu les deux mouettes, ils n'ont pas fait ah ah. C'était deux flics. Et là, maintenant, les femmes, elles ne peuvent plus rentrer ni avec les burqas ni les foulards.
Incroyable.
Parce que les jeunes ont dit si tu veux rentrer dans la cité, deviens décapotable ou tu rentres pas.
Et toi, tu as regardé un petit peu Marine à la télévision, Marine Le Pen ?
Ouais, je l'ai vue. Elle est spéciale. Franchement, c'est un woman show, cette femme. Hein.
Oui.
Je te jure, il faut la prendre. Fais un contrat avec elle, tu fais un carton.
Tu trouves
je te jure, c'est le comique. Hein.
C'est celle qui fait le mieux le spectacle des hommes politiques.
La meilleure, je te jure. Elle a dépassé le Luron, elle a dépassé Coluche, elle a dépassé tout le monde. Elle a une psychopathe, c'est parce qu'elle fume ce qu'elle prend. Oh, elle voulait agresser les trois journalistes de Itélé la dernière fois. Surtout Madame Kawa.
Mais je crois que mais c'est fou comme elle arrive à manipuler les gens. Hein. Les gens avaient l'air très très convaincus après l'émission de ce qu'elle disait. Hein.
Ouais, mais maintenant, je t'explique la vérité, mon frère. À la télé, il n'y a plus rien. Il n'y a que de la merde. C'est obligé que quand Marine, elle passe, tout le monde a envie de la voir. C'est ou Ben Laden ou Marine. Il n'y a rien dans cette télé. Il n'y a rien.
Et mon baba?
Oh non.
Bon, merci, merci Bouchta. Ça va aller.
Ouais.
On va partir avec Jack à Lyon. Je t'embrasse très fort, ça nous a fait plaisir de t'entendre.
Présente-toi pour les élections, je suis sûr que tu gagneras.
Oui, tu nous as manqué.
En tout cas, c'est fascinant ces histoires de burqa, là, de flics masqués. Oui. L'inspecteur Clouseau. Ouais.
Jack, souvent à Lyon.
Oui, bonjour.
Bonjour Jack.
Bah oui, la conscience des villes, on la trouve aussi, et c'est sur les messages qui sont écrits sur les murs. Hein.
On écoute, voilà. Ça raccroche, Bouchta vient de raccrocher, donc il y a cette très jolie sonnerie, quand quelqu'un disparaît, il ne reste plus qu'un son derrière.
Pardon,
donc on est avec vous.
L'inconscient dans les villes aussi, je vous écoutais, mais on le trouve aussi écrit sur les murs de la ville. Brassailles, il avait compris ça, avec les petits graffitis, etc. Et là, moi, si je vous donne un inconscient de la rue, je ne sais plus où je suis,
ça serait la moindre des politesses.
Voilà, cours, je ne sais pas où je suis sur un boulevard à Lyon. Je lis par exemple au Royaume du chocolat, déblocage, aqua biking, santé bus par exemple. Spécialité italienne. Voilà, arrêt reporté. Ça dit quelque chose de la ville, moi je trouve.
Oui, mais quoi?
Oui, quoi, c'est ça. C'est ça, bah, il faut demander à Monsieur Petit qui va analyser ça. Et en attendant, moi je suis avec trois garçons sur le trottoir à un arrêt qui est reporté, puis vous êtes là pour, il y a marqué AMI sur votre badge, accueil, médiation, information, service. C'est ça. Donc on est là pour aider les gens, pour l'accueil, pour la sécurité, pour beaucoup de choses. Hein. Vous parlez des incivilités, vous dites ce qu'on a le droit de faire, est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Voilà, c'est ça. Les incivilités qui se présentent sur le réseau TCL, on va dire en heure de pointe, quoi, en gros.
Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, par exemple?
Qu'est-ce qu'on a le droit de faire? C'est une très bonne question. Eh ben, écoutez.
On a le droit de se parler pendant le service, par exemple. Là, vous avez le droit de me parler?
Oui, j'ai tous les droits de vous parler, de vous aider, de vous renseigner. Ah. Ça, c'est normal. Après, c'est surtout qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire.
Moi, je préfère voir l'autre côté. Oui, je vous en prie.
On n'a pas le droit de se bousculer. Voilà, les insultes et tout, les dégradations. Voilà, même dans les lieux publics fermés avec la loi E20, la cigarette. Voilà, nous sommes là pour ça, pour rappeler un peu les règles.
Alors, par exemple, dans le cadre d'insultes, la médiation serait quoi? Vous voyez deux personnes qui... par exemple, je suis avec quelqu'un, je dis...
Chameau.
Chameau,
tu... oh là là, tu me...
Ouais, chameau, c'est trois points. Non, mais si on entend ça, juste ça, on va pas intervenir. Mais après, voilà.
C'est quand même méchant, chameau, pardon.
On essaye de, comment dire, d'apaiser les esprits, en fait. Mais de nous mettre aussi nous-mêmes en sécurité. Hein. On est là en première ligne, mais on a quand même la sécurité avec un appel PC, etc., voilà, si on voit que après quelques phrases, on peut rien faire, on décroche assez rapidement.
Vous avez des techniques pour adoucir l'atmosphère, d'être calme, d'être doux, de sourire, de raconter une blague, donc.
On a des techniques, on a un protocole, c'est tout bien géré, hein. C'est ça, c'est exactement ça. On va essayer de faire en sorte que ça arrange le client aussi, hein, comme vous dites, le sourire et tout. C'est exactement ça. Hein.
Et donc, ça doit être bien, vous sentez utile quand vous levez le matin, vous dites que vous allez faire du bien?
Pas forcément que je vais faire du bien, mais que je sais que je vais renseigner que, voilà, que je ne vais pas servir à rien, ça c'est sûr.
C'est agréable dans sa tête quand on se lève le matin de savoir qu'on va servir à quelque chose.
Oui.
Eh bien, bonne journée, cher monsieur.
La liberté pour quoi faire? La liberté pour quoi faire, c'est une très bonne phrase. Non, mais voilà, c'est comme ça. Après, c'est nous, on est en reconversion, c'est difficile le travail, donc on est content. On est employé, on est content.
Eh bien, je vous souhaite une très bonne journée, cher monsieur.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Edouard Baird.
Ça me rappelle rien.
Quand tu vas arriver à l'école avec ton plâtre, tu crois qu'ils vont dire quoi, les autres enfants?
Je sais pas.
Tu penses qu'ils vont être jaloux? Ils vont dire, oh là là, tu as dû avoir une vie très aventureuse, tu dois avoir plein d'aventures.
La d'habitude, quand il y en a qui rentrent des vacances, ils disent rien, moi.
Bah parce qu'ils n'ont pas de plâtre. Parce que oui. Si tu rentres de la plage, c'est très rare d'avoir un plâtre quand on a nagé. Sauf si on a été attaqué par un requin. Mais tu connais pas des enfants qui ont été attaqués par des requins, si?
Non.
Ou par des mérous. Je vais tousser un petit peu. Donc tu étais au ski, là, dimanche. Et qu'est-ce qui s'est passé alors? Comment c'est arrivé, ce plâtre?
Bah en fait, j'étais trop fatiguée de faire du ski. Mais ils ont insisté mon papa et mon frère, ils ont insisté pour faire une dernière pente.
Ouais.
Donc j'ai accepté. Et donc la dernière pente, elle allait trop vite, donc je suis tombée.
Ben voilà. Et donc c'est la faute de ton frère qui a quel âge?
Oui.
Il a quel âge, ton frère?
Il a 10 ans.
Et toi, tu as quel âge?
8 ans.
Et t'aimes bien suivre les conseils de ton frère?
Non.
Pas trop, d'habitude. C'est comme ça que qu'avant, t'avais pas de plâtre, parce que tu suivais pas trop. Il était embêté, ton père, il a admis que c'était de sa faute ou pas?
Oui.
Eh oui. Et ça, il aurait mieux fait. Enfin bon, tout ça, ça me... Ah, oh, je suis énervé. Et donc, c'est quoi ta poésie?
Ça s'appelle Liberté.
Eh bien, on va l'écouter avec... Je te présente Jean-Noël Mistral.
Bonsoir.
Jean-Noël Mistral qui écrit des poésies.
Je les écris sur le rebord des nuages. Et je suis poète des chemins, poète de la poussière. Et je suis très enchanté de te rencontrer.
Je ne vous avais pas encore posé de questions, Jean-Noël.
Oui, mais je préfère répondre avant.
Alors, Jean-Noël, peut-être que tu apprendras un jour...
Je fais ce que je veux.
Peut-être que tu apprendras un jour ces poésies à l'école, mais pas dans les prochaines années, je te le garantis. On t'écoute, mon cher Roman, dans Liberté.
Prenez du soleil dans le creux des mains, un peu de soleil et partez au loin. Partez dans le vent, suivez votre rêve. Partez à l'instant, la jeunesse est brève. Il est des chemins inconnus des hommes, il est des chemins si aériens. Ne regrettez pas ce que vous quittez. Regardez là-bas l'horizon briller, loin, toujours plus loin. Partez en chantant, le monde appartient à ceux qui n'ont rien. Maurice Carême.
Le monde appartient à ceux qui n'ont rien. Tu aimes bien ces paroles, la jeunesse est brève. Tu penses que c'est court, la jeunesse, toi?
Oui.
Ça dure combien de temps?
100 ans.
Jusqu'à 100 ans, on est jeune et après...
Non, jusqu'à... 20 ans.
Jusqu'à 20 ans, on est jeune. Et ensuite?
On devient adulte.
Adulte. Et après?
À quel âge?
20 ans, on est adulte, mais donc on n'est pas vieux, quoi, on est adulte.
C'est quand même vieux, 20 ans.
On n'est pas vieux.
Toi, tu te trouves jeune ou pas?
Oui.
T'as l'impression de savoir quand même plein de choses sur la vie?
Non.
Qu'est-ce que tu aimerais savoir, par exemple? Tu peux me demander? Si t'as une question, c'est vraiment le moment, parce que là, je suis prêt à répondre.
Pourquoi on mange des œufs, hein?
Oui.
Pas de question.
Pourquoi on mange des œufs, Jean-Noël Mistral?
Je sais pas, j'ai essayé de trouver une question.
Pourquoi les poules ont des ailes et ne volent pas, Jean-Noël Mistral?
Parce que je pense que elles sont trop conformistes.
Elles pourraient voler, mais elles ne veulent pas.
Elles ne veulent pas de façon génétique. Alors c'est un peu difficile.
C'est un conformisme génétique. Dans leur gène, il y a l'idée de
terre à terre. Peut-être je me trompe. Peut-être je suis un peu étriqué dans ma façon de penser. Quand je pense ça, peut-être je ne fais pas attention.
Tu avais déjà été face à un vrai poète?
Non.
Tu les imaginais comme ça?
Non.
Eh oui, c'est toujours décevant. Jean-Noël Mistral,
c'est
vous
décevant,
êtes venu...
mais dans le bon sens.
Oui,
parce
sûr.
Que je suis mal habillé, mais...
Je suis en bien... C'est une sorte de cape que vous avez. Vous avez un petit poème pour nous, Jean-Noël?
Oui, qui est exactement presque le même poème que toi, puisque c'est sur la liberté.
Ah.
Ça s'appelle Une pomme de terre.
Zut alors.
N'hésitez pas si vous trouvez que bon, c'est un peu long.
D'accord.
Une pomme de terre est posée. Une pomme de terre est posée sur un bout de journal fripé. Elle est posée sur le flanc. On a l'impression qu'elle dort dans son habit de robe de chambre. Ou bien elle rêvasse. Ou elle attend
Roman,
quelqu'un.
Il y a Roman qui se marre.
On attend quelqu'un. Que quelqu'un la prenne dans ses mains chaudes. La pauvre. Elle est blanche dans le cœur et marron sur le dessus. Et dans sa robe de terre du dimanche, Non, sa robe de terre du lundi.
Passer à la strophe 3.
Du jeudi. Elle a l'air de bouger dans son sommeil. Elle a l'air de créer, de crier, de peur. Elle fait peut-être un cauchemar de cuisson. Elle agrippe ses cheveux de racines de tubercule. Et elle crie son long cri de silence, son cri de mounche, qui hérisse le poil des lapins et qui fait peur aux rats. À quoi penses-tu, pomme de terre ? Oh, pomme de terre endormie, comme tu es mignonne. Tes formes sont plus sensuelles que 12 hanches qui se retournent dans son lit, qu'une lune durcie, que 7 prères qui font l'amour. Il y en a encore pour encore une heure.
Tu aimes bien le poème de Jean-Noël Mistral ?
Pof ?
C'est très rigolo.
Ah, non, non, Jean-Noël.
Ici, entre ces deux bosses, lorsque je mets mon œil juste devant, on a l'impression de voir comme un canyon entre deux collines. Et là, des Indiens courent à côté de leurs chevaux dont ils sont tombés. Mmh. Et là, un chariot qui t'étale dans la poussière de ta peau mouchetée au toit pomme de terre. Oh là. Avec sur le rebord du chemin des iris et des coquelicots noirs. Et dans le chariot, une femme aux lèvres chaleureuses, à la poitrine giboyante, tenue par des flamelles ivoires qui gigotent pour récupérer les forces de son buste.
Etc. Ouais.
Les yeux, ouais. Et avec les yeux qui me cherchent et m'attendent, c'est elle que j'attends, je crois, pas sûr. Et ouais. Puis soudain, j'ai faim.
Oui.
Oh,
vous allez
je
manger.
Je ne prépare ouais. À manger.
Ouais. Jean-Noël, il y a une vraie souffrance dans ce poème.
C'est pas fini.
Non, et mais c'est pas. Vous n'avez pas fini, mais nous, oui.
Il y a une vraie souffrance, oui, la souffrance de la pomme de terre et à la fois la souffrance de la solitude face à la pomme de terre.
Vous arrivez à ce que j'aime dans vos poèmes, et Roman aussi aime ça, c'est que vous arrivez à vous mettre vraiment à la place du sujet. Vous vivez ce que vit la pomme de terre. Il y a une vraie, il y a une empathie.
Mais là, je l'ai peut-être mal dit. J'étais pas.
Non, on a passé un bon moment, non ?
Oui.
Mais le problème, c'est qu'il faut y aller un moment. C'est ça que tu me disais, Roman.
Faut partir.
À un moment, faut peut-être.
Faut pas rester. Faut pas rester là.
On dit au revoir à Jean-Noël. Tu lui dis au revoir ?
Au revoir.
Voilà, ça se passe très très bien.
Au revoir.
Il y a une vraie souffrance chez l'auditeur aussi.
Nova. De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
S'il pouvait s'embrasser lui-même, il le ferait.
Quoi, comme mais viens là, Tmen.
Oui.
Qui vient assister au journal de Thierry Paret ?
Moi, je suis là, j'ai tout, j'ai envie de m'informer. J'ai envie de m'informer, j'ai envie d'avoir de très très bonnes infos.
C'est très bien.
Des infos de qualité, très bien dites.
Il est 8h.
Et voilà. Voilà, c'est fait, les amis. L'Inde a lancé avec succès ce matin 104 satellites d'un coup. C'est un record mondial, record suivi en direct sur toutes les télévisions indiennes. Les prix proposés par l'agence spatiale indienne lui ont attiré les faveurs d'une importante clientèle internationale. Ainsi, sur les 104 satellites mis en orbite ce matin, 96 sont américains. Les 5 autres sont israéliens, kazakhs, néerlandais, suisses et émiratis. Y a-t-il eu une autre bavure à Aulnay-sous-Bois ? En tout cas, une enquête préliminaire a été ouverte. Un ami du jeune Théo affirme dans l'Obs avoir été passé à tabac une semaine avant l'interpellation musclée du jeune homme de 22 ans. Il met notamment en cause le même groupe de policiers, au moins un d'entre eux surnommé Barberousse. Le jeune homme raconte avoir été roué de coups durant plus d'une demi-heure le 26 janvier. Il n'a pas porté plainte parce qu'il venait de trouver un travail et qu'il ne voulait pas risquer de le perdre. Rappelons que 4 policiers ont déjà été mis en examen dans l'affaire Théo, 3 pour violence volontaire et 1 pour viol. Porte-parole de François Fillon, député des Hauts-de-Seine, Thierry Solaire entend porter plainte en diffamation contre le Canard enchaîné. Le journal satirique affirme ce matin qu'il fait l'objet d'une enquête préliminaire, soupçonné entre autres d'avoir omis de régler une partie de ses impôts sur le revenu de 2010 à 2013 et sa taxe foncière. Sur cette dernière année, Thierry Solaire affirme avoir toujours déclaré ses revenus et être actuellement à jour de ses impôts. Premier test dans les relations entre Donald Trump et Israël. Benjamin Netanyahou doit être reçu tout à l'heure à Washington. Pendant sa campagne présidentielle, Donald Trump s'est présenté comme le meilleur ami de l'État hébreu. Depuis la colonisation israélienne s'est accentuée sur les territoires occupés, et le nouveau président américain a émis des réserves sur cette dernière. Signé dans la douleur, le CETA, le fameux traité commercial de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, doit être soumis ce mercredi après 2 jours de débat au vote du Parlement européen. Ensuite, ce sont les parlements nationaux qui voteront sur ce traité. Près de 200 000 personnes devaient évacuer leur domicile en Californie, menacées par les inondations. Finalement, l'ordre d'évacuation a été levé ce matin. Le barrage d'Oroville, qui est le plus haut des États-Unis, menaçait de céder suite aux pluies importantes de ces dernières semaines. Les autorités ont réussi à faire baisser le niveau de l'eau, mais de nouvelles intempéries sont annoncées actuellement. On le savait et ça se confirme, les footballeurs professionnels sont davantage exposés aux maladies cérébrales. Réalisée auprès de 14 anciens joueurs hospitalisés à Swansea, une étude en Angleterre, donc Swansea, une étude révèle un lien potentiel entre l'encéphalopathie traumatique chronique et la pratique du football. Les footballeurs professionnels
ont plus de chances en fait de contracter une maladie du cerveau pouvant provoquer par exemple une démence. Le PSG a réalisé un exploit incroyable hier soir en collé 4 au Grand Barça, succès qui sonne comme une sentence pour les Catalans parce que de toute l'histoire de la Ligue des Champions, aucune équipe n'a réussi à se qualifier après avoir perdu 4-0 à l'aller lors de la phase finale. Match retour en tout cas en Espagne le 8 mars. Le PSG, bon, on en a parlé. On termine avec les mondiaux de ski. La France a été sacrée championne du monde de l'épreuve par équipe en battant la Slovaquie hier. C'est une nouvelle discipline qui oppose des skieurs, hommes et femmes, sur des slaloms parallèles.
Alors il y a... C'est... Et les infos plus intimes, ça va la petite santé ?
Moi ça va très très bien.
Oui ?
Moi ça va.
Arnaud ?
Bof.
Papa, mal où ?
Mal un peu partout.
Vous avez pris une petite aspirine, un doliprane ?
Non, pas encore.
Moi j'ai fait une connerie ce matin, j'ai pris un jus d'orange.
Ah, c'est très acide ça.
Et après derrière j'ai pris un café.
Ah, demandez-moi avant. Non, la petite santé, Thierry ?
C'est pas terrible.
Un peu mal à la tête. Mais
Jacqueline Gompi qui est notre prochaine invitée. Vous êtes accro vous aux réseaux sociaux ? Vous êtes assise dans le fond du studio, vous Instagrammez, vous tweetez, vous Snapchattez, vous faites des qu'est-ce que...
Tinderé.
Comment vous voulez-vous concentrer pour écrire votre prochain City Guide ?
Non, je ne suis pas accro, si. C'est juste pour le travail.
Dites-moi franchement, est-ce que quand vous vous levez, vous checkez vos Instagrams ?
Ça m'arrive des fois.
Vous likez des photos de copains en vacances ?
Non. Non, je regarde plus mes réseaux sociaux professionnels.
Oui, tiens, bien sûr. Tito, ça va ?
Ouais.
T'es content de la vie ? La vie est gentille avec toi ?
Impeccable.
Qu'est-ce qui s'est passé de bien depuis ces 40
ans ? J'ai bien déjeuné parce qu'il y avait les croissants, les chocolatines ce matin à la radio.
Chocolatine, ça se dit en Belgique, en France ?
Ça se dit en Belgique.
Pas au chocolat.
Voilà, c'est midi de la France.
La petite santé, Armel, vous êtes bien l'hiver, vous le traversez serein ?
Moi, ça va, mais pourquoi pas de jus d'orange le matin ?
Alors, moi, j'ai pris un jus d'orange.
C'est le point.
Et après, derrière, j'ai pris un café.
Non, attendez, c'est important.
Il faut faire très attention aux acidités. J'ai envie qu'on parle très sérieusement de ce sujet-là.
Oui.
Est-ce que, par exemple, Jack, souvent, il en est où, lui ? Il est...
Ouais, j'ai pas pris la bonne caisse. C'était pas la meilleure, c'était bien la plus lourde. Allez-y, passez devant.
Il est à Lyon, mais il sait jamais dans quelle rue il est.
Oui, c'est parce que je sais on est dans quelle rue. On est rue Cour-Lafayette.
Voilà. Peut-être.
Ça va être compliqué parce qu'on va jusqu'au deuxième étage. Qu'est-ce qu'on va faire là ?
Il n'est pas lyonnais,
on va changer des menuiseries et réparer de vieilles portes.
Il était lyonnais, Lafayette ?
Lafayette, aucune idée.
Pourquoi il a son cours à Lyon ?
Parce qu'il est très connu, quand même, Lafayette. Il a libéré l'Amérique, quand même.
Si, je suis connu.
Vous n'avez pas de cours.
Non, mais je n'ai pas libéré l'Amérique non plus. Bon.
Ça y est, on arrive. Moi, je crois que j'ai bête pas eu la bonne caisse.
Qu'est-ce que vous faites ? Vous transportez de la menuiserie, là ?
Les outils, pour commencer.
Vous allez réparer quoi, monsieur ?
On va changer des fenêtres d'un vieil appartement, et puis... réhabiliter des portes pour créer une salle de bain dans une pièce qui était inexistante.
Vous avez reçu des arts déjà ?
Ah, malheureusement non.
Donc vous allez en confiance, là, vous allez faire les travaux et...
En confiance complète.
C'est-à-dire, c'est une dame, voire un monsieur, qui vous a dit « Tiens, mes fenêtres sont trop vieilles, il faut les changer. »
C'est des très bons clients qui nous ont dit « On a un appartement en location qu'on doit réhabiliter.
Ouais.
Il faudrait qu'on change nos menuiseries, qu'on fasse 2-3 travaux, la cuisine. » Vous voulez, oui, il n'y a pas de problème.
Le loyer va un petit peu bouger suite à cette réhabilitation ?
Ah, je pense qu'il pourra, là.
C'est ça.
L'appartement était bloqué dans les années 30.
Ah, il est resté dans son jus.
Il était temps de faire quelque chose, quoi. Ouais, c'est ça.
Donc, on va partir sur quoi comme bois ?
Voilà, on va partir sur du bon PVC qui n'a pas d'entretien. Des locataires, ça ira très bien. Et puis,
Bravo ! Bon, les locataires, ça fera l'affaire. On va foutre 3 étudiants là-dedans avec du placo.
Ouais, peinture.
Oui, ouais.
Ah, merci ! Bravo, Isabelle.
Eh oui, il y a un coup de propre et puis c'est parti.
Aïe, mon Dieu, la France est dans un état. Alors, ça se passe bien, vous allez raboter, qu'est-ce que vous avez comme outil ce matin ?
Oh là, on a sorti le perfot, on a sorti la visseuse, on a sorti le rabot. On va faire du bruit, on va réveiller un peu tous les voisins, je pense. Ah,
oui. Vous êtes compagnon du Tour de France ?
Pas du tout.
Je vais vous inscrire pour un Tour de France. Très très bonne journée à vous, monsieur.
On va taper à quelle heure ? Ouais, d'ici une petite demi-heure, là, on va y aller.
Allez, on vous laisse taper, nous.
Allons taper, alors.
Taper, raboter et augmenter les loyers. Telle est notre mission ce matin à Lyon.
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Rien, j'aime bien quand il y a des silences.
Ouais, c'est agréable le silence, ça permet de se retrouver soi-même.
Publicité maintenant, on sera débarrassé ?
Ils vont maroufler aussi, j'aime bien le mot
maroufler.
Combien de pubs vous voulez, je vous en mets ?
Mettez les pires que vous ayez.
1 kilo.
7h, 9h, plus près de toi.
9h, plus près de toi.
7h, 9h,
Edouard Baird.
Je m'éclate, j'en peux plus.
Nova.
Il était remonté le type de Conforama, Thomas Baumgartner, hein, vous l'avez entendu?
Oui.
On se faisait presque engueuler.
Bah, limite, quoi.
Ouais,
moi, ça me fait presque peur à cette heure-là.
Oui. Je vous ai vu en acheter, quand même, entre-temps.
Bien obligé.
Nous sommes avec Jacqueline Gompil. Bonjour, Jacqueline.
Bonjour, Edouard.
Le guide Little Africa, un nouveau city guide, un guide urbain. C'est l'Afrique à Paris, avant de voir l'Afrique dans d'autres villes. Quel est ce projet avec Thomas Baumgartner?
Quel est ce projet
parce
avec vous?
Parce que moi, je suis pas bon pour. Je m'aperçois que c'est pas clair. Je dis des trucs, il faut recontextualiser.
Si, le contexte, c'est ce que vous avez dit, Edouard, c'est que ce guide nous présente, alors plutôt que l'Afrique, les cultures africaines à Paris. Comment, selon tous les quartiers, je pense qu'il y a quasiment tous les quartiers qui sont passés au crible, on peut trouver non seulement des indices, mais une manière d'approcher même les cultures africaines à Paris. C'est ça?
Oui, c'est un petit peu ça. Et puis surtout, en fait, c'est à la fois une valorisation de certains quartiers. En fait, moi, j'ai été marquée notamment par les médias américains qui ont ciblé certains quartiers comme des no-go zones. Mm-hmm. Et donc, c'était une manière pour moi un petit peu de valoriser les quartiers populaires et aussi d'emmener les touristes dans d'autres quartiers où on ne s'imagine pas du tout qu'il y a l'Afrique. Par exemple, Saint-Germain-des-Prés, en fait, qui est clairement le fief en fait, pour l'art tribal africain. Mm-hmm. Donc voilà, c'est apporter un nouveau regard aussi sur différents quartiers aussi à Paris.
Il y a tous les quartiers, vous l'avez dit, il y a autant le 6e que le 20e que le 18e arrondissement. Ouais. Tout de suite, on peut dire, est-ce que c'est envisageable que ce guide-là existe dans d'autres villes en France? A priori, il y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire, il y a du potentiel, notamment pour Bordeaux, par exemple, aussi, qui a une empreinte africaine, que ce soit... bon, après, il y a toute l'histoire esclavagiste de Bordeaux, donc qui se retrouve dans l'architecture. Il y a du potentiel, mais c'est vrai que Paris, quand même, offre aujourd'hui beaucoup plus de marge, en fait, par rapport aux autres villes.
Tous les aspects, alors, à la fois le passé, lié au le passé africain dans les quartiers, le présent, les restaurants, les styles de vie. C'est vrai qu'à Paris, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de petits quartiers. Il y a un Little Soudan, il y a un petit Cameroun. C'est très étonnant. Parfois, c'est sur deux rues, c'est sur trois cafés, quatre magasins.
Oui. Little Mali aussi, Little Sénégal, dans le 18e, on va retrouver des petits labels comme ça un petit peu. Donc, c'est vrai qu'il y a un petit peu toutes les communautés. Et, comme le disait une fois, j'avais assisté à une conférence avec l'ambassadrice du Ghana qui disait que Paris, l'exception de Paris, c'est que on croise toutes les communautés africaines en fait. À Paris.
Ah, vous menez la grande ville, l'ambassadrice du Ghana, les réceptions, les Ferrero Roche d'Or, les réceptions de l'ambassadeur, les grandes tenues, les cocktails, d'accord.
Non.
C'est pas les petits quartiers.
Non, pas encore. Non.
Est-ce que l'idée, c'est aussi de décloisonner, justement, parce qu'il y a de créer des liens entre les différentes communautés, de les rendre visibles aussi, tout simplement, parce qu'on ne connaît pas forcément ces labels, comme vous disiez.
Effectivement, c'est de les rendre visibles, surtout, en fait, moi, je suis guide aussi à côté. Et je me suis rendu compte, en fait, en guidant beaucoup les touristes américains, souvent, bon, Paris est la première ville la plus visitée au monde. Beaucoup de touristes ne savent pas, ne connaissent pas du tout cette histoire de la France. Et
mais
de l'Afrique.
Même les Parisiens qui ne sont pas touristes.
Et même les Parisiens. Mais c'est vrai que ne serait-ce que l'histoire que la France peut avoir avec l'Afrique, les touristes ne la connaissent pas du tout. Quand ils arrivent à Paris, ils sont très surpris de voir autant de Noirs. Voilà, ils comprennent pas trop. Est-ce que c'est il y a les médias, ce qu'on leur montre, est-ce que c'est les arrivées de bateaux et du coup, il y a toute cette histoire complexe un petit peu. Et les musées qui traitent un petit peu de cette relation France-Afrique ne sont pas forcément dans les circuits classiques qu'on vend en fait aux touristes quand ils viennent à Paris. Du coup, ils savent pas du tout en fait pourquoi cette présence africaine existe à Paris.
Alors c'est vrai qu'on a l'impression que Paris tout est quadrillé, que surtout dans les quartiers du centre, c'est toujours la même chose, le même type de boutique. Et en fait, grâce à votre guide, on s'aperçoit qu'il y a des choses souterraines, il y a des mystères, il y a des choses poétiques. Ça va de la librairie, la légendaire librairie L'Harmattan, qui est la grande librairie du 5e arrondissement, jusqu'à des toutes petites adresses, effectivement, des restaurants où se retrouvent des types de... mais pas seulement de communautés au sens ethnique ou de pays, des communautés culturelles précises avec des goûts, des musiciens qui se retrouvent ici ou là.
Les restaurants, on va avoir des restaurants éthiopiens, des restaurants sénégalais, on va avoir ce qu'on appelle les petits maquis. Donc dans le 18e, il y en a énormément. Et c'est vrai que Paris a cette chance-là, par exemple, par rapport à Londres, où il faut vraiment sortir, aller à une heure de trajet pour aller manger voilà, un bon petit tchèb ou un bon petit mafé. Paris, on a tout qui est concentré et hyper à proximité. Donc du coup, c'est plus facile de faire découvrir aussi la gastronomie africaine.
Et puis on s'aperçoit aussi qu'il y a des musiciens capverdiens qui se retrouvent là, des exilés, tel parti politique là. Mais c'est une vision assez poétique et réjouissante de la ville. Effectivement, on peut dire dans chaque ville, il y a d'autres aspects que ce qu'on voit, que l'aspect purement commercial. Il y a des gens se retrouvent, des gens d'ailleurs, ils viennent causer.
Il y a des vieilles boutiques. Il y a également, dans le 18e, par exemple, il y a des petites boutiques de pharmacopée qui ne sont pas référencées dans le guide parce que c'est des boutiques très particulières.
Ouais.
Mais de temps en temps, on organise des visites aussi pour emmener le touriste là-bas. Donc, c'est aussi l'occasion de sortir hors écran. Et il y a des petites boutiques sympas. Il y a de la sapologie. Enfin, on passe de vrais bons moments, en fait.
D'ailleurs, voilà. De Château-Rouge. Vous êtes aussi donc guide. Vous avez, comment ça s'appelle? Comment on peut vous organiser un tour comme
J'organise des tours, en fait. Il y a un tour qui s'appelle le Made in Goutte d'Or. Qu'on organise depuis un an à peu près. Et c'est une balade de 3 heures dans le quartier de la Goutte d'Or et qui nous permet de découvrir en fait des ateliers, des boutiques à la fois de tissus, de wax et la gastronomie aussi africaine.
Made in Goutte d'Or, si Made on tape ça, on trouve, on vous trouve.
Ouais.
Et dans ce guide aussi, Little Africa, l'Afrique à Paris, c'est une manière de rencontrer des artistes, puisqu'on est guidé à l'intérieur du guide par des artistes. Il y a même l'idée d'une exposition qui irait avec ce guide-là.
Tout à fait. Alors en fait, la particularité du guide aussi, c'est le fait d'avoir invité 5 artistes contemporains en fait, à présenter leur vision de Paris. Donc ils ont différentes disciplines, à la fois un photographe, un artiste peintre, on a également un pop artiste. Et c'est assez impressionnant ce qu'ils ont représenté pour eux. Donc il y a l'hommage à la Parisienne tout simplement. Donc il y en a qui ont clairement revu l'image de la Parisienne aujourd'hui. Il y en a qui sont fascinés par l'architecture parisienne. Donc c'était aussi l'idée de montrer qu'en tant qu'Africain, on n'est pas forcément que intéressé par Château-Rouge. Enfin, il y en a qui n'y mettent pas les pieds. Et on peut être intéressé juste simplement par l'architecture. Et il y en a qui ont clairement fait un hommage à la ville de Paris aussi.
Merci Jacqueline Gompi. Alors pour le moment, le guide de Little Africa, le City Guide Africa Paris, se trouve que dans quelques librairies, Galerie Lafayette, chez Voyageurs du Monde, chez Smith et au Publistore. Et puis votre tour opérateur, rappelons-nous.
Tour opérateur.
Non, comment on voyage à travers la Goutte d'Or?
Tiyin Travel.
Tiyin Travel, alors ça c'est une autre histoire.
Ça
en fait.
C'est une usine à gaz, mes enfants. Non mais le voyage dans la Goutte d'Or, comment ça s'appelle?
Made in Goutte d'Or.
Made in Goutte d'Or. Merci Jacqueline, est-ce qu'il y a un dernier mot que vous voulez nous dire pour partir sans regret de ce studio?
Bah écoutez, venez nous voir en visite. Hein.
Très
bien. On vous attend.
On vous embrasse.
Merci.
Alors, Atmen, juste avant la revue de presse de ma émission, vous disiez, j'ai pas assez parlé dans cette émission.
Oui.
Le mercredi, c'est la journée des sorties
des
cinéma.
Sorties. À Paris, c'est la sortie. Donc,
qu'est-ce qui est sorti aujourd'hui?
Il y a Rock'n'Roll, je pense que c'est bien. Libby.com pour se taper sur le ventre un petit peu. Mais je voudrais mettre un petit coup de pouce sur Jackie quand même. C'est un film important qui est là depuis une semaine. Il faut vraiment qu'on en parle, quoi, vraiment. Vous voyez ce que je veux dire, quoi? Voyez,
non, mais j'ai... bon.
Quoi, qu'est-ce
moi, j'ai
qu'il
pas
y a
compris.
Non, je sais pas. C'est quoi le film sur. C'est le truc, c'est bien d'avoir fait ce film.
Oui, c'est important que les Américains reviennent sur leur histoire, sur une femme très importante qui était Jackie. Oui, vous voyez. Alors, qui c'est Jackie?
Oui, non, parce que je vois très bien le film sur Jackie. Je trouve ça très courageux que ce film existe et qu'on fasse un film.
Jackie et Michel.
Que les Américains fassent un film sur un personnage français comme ça.
Non, elle n'est pas française.
Bah, elle est française.
Si, elle est un petit peu française, mais elle a
c'est très rare. Je trouve que c'est Nathalie Portman, c'est une idée très courageuse, effectivement, de confier à Nathalie Portman le rôle de la mère d'un chanteur comme ça et d'en faire
qu'est
un.
Chanteur.
Mais surtout qu'elle a participé a participé à Récréa 2.
Non, mais je trouve que c'est formidable. Je trouve que de dire à Nathalie Portman d'incarner pour un film américain une image qui est oubliée en France, quelqu'un qui a beaucoup compté dans le théâtre français, je trouve que c'est
elle
formidable.
Elle a jamais fait théâtre.
Enfin écoutez, Jackie Sardou a joué dans plus de 30 pièces, c'est la mère de Jackie Sardou. Je trouve ça incroyable que ce soit les Américains qui fassent un film sur elle. C'est tout.
Non, c'est Jackie Kennedy. C'est Jackie.
Écoutez, je
Jackie
suis encore
du club
ce que
de Dorothée.
Je... Allez, tout de suite la revue de presse de Marie Bisset.
Elle ne travaille pas, qu'elle fait que lire le journal. La revue de presse de Marie Bisset.
Marie, bonjour.
Oui, bonjour.
On comprend rien cette histoire de Jackie.
Mais Jackie a quand même beaucoup compté pour le...
Tais-toi. Qu'est-ce qui s'est passé dans la presse ce matin?
Eh bien, par exemple, dans la presse ce matin, Edouard, bonjour. Pour Théo, mais avant ça, Adama et puis Zied et Bouna, l'encre continue de couler, notamment en une de Libération, Omar Sy, Nekfeu, Rokhaya Diallo, mais aussi Anne Roumanoff ou encore Josiane Balasko s'engagent. C'est la une de Libé. Au jour le jour, à Aulnay, comme dans d'autres quartiers, celles qui s'engagent vraiment au quotidien semblent être les daronnes, les mamans. C'est en tout cas le sens d'une double page du Monde consacrée à ces mères qui manifestent avec des panneaux tels que Théo et Adama te rappellent pourquoi Zied et Bouna couraient et en même temps calme les ardeurs des plus énervées. À Aulnay, témoigne Ryan, ce sont les daronnes qui ont viré les policiers de la cité. Elles ont en effet parlementé pendant des heures au commissariat pour expliquer à quel point cette présence policière hostile était une provocation après le viol de Théo. Heureusement qu'elles nous conseillent, nous soutiennent et font ce qu'il faut pour nous calmer, reprend Abel. Et puis l'article du Monde finit sur ces mots de Ryan. Il faut voir comment la justice va faire son travail. Pour l'instant, on écoute les darons. En revanche, ce que certains regrettent, c'est qu'il n'y ait pas de voix issue des quartiers pour porter plus fort dans l'espace public. C'est en tout cas ce que disait hier dans Le Parisien le rappeur Mokobé. Il faut des leaders d'opinion. Il disait, ces jeunes qui nous écoutent à longueur de journée attendent de nous qu'on les représente. Et bien justement à Chicago, alors que les émeutes embrasaient à nouveau la ville en 2015, après un énième scandale policier où un ado non armé avait été tué à bout portant, des leaders d'opinion sont apparus et des jeunes en plus, à commencer par Malcolm London, 24 ans, auquel le site Pitchfork réservait un papier pour son nouvel album en janvier. Malcolm London, à la base, n'est pas rappeur, il est activiste, il est éducateur et surtout, avant tout, chronologiquement, il est poète. Le philosophe Cornel West l'a intronisé, Jill Scott Heron de sa génération. Son arme, ce sont ses mots, ciselés, où Chicago devient une arène de gladiateurs. Quand en 2015, il s'est fait arrêter pendant une manif, une grosse mobilisation a eu lieu pour demander sa libération. Free Malcolm London a pris la tête des hashtags à Chicago.
Un poète... Vous savez, c'est pas mal quand même, justement, quand il n'y a pas de leader, quand il n'y a pas de chef. Vous disiez juste avant, quand ce sont des mères
c'est
de familles
voix.
Anonymes, ou quand en Roumanie, tout à coup, c'est le moment de la rue sans nom précis, où il y a un moment dans Nuit debout qui était assez beau comme ça, il n'y avait pas de voix précise. Et là, vous dites à un moment, ce sont des mamans, et voilà, il n'y a pas de leader charismatique, il n'y a pas de chef, il n'y a pas
c'est
de...
C'est bien qu'il y ait des voix qui s'expriment quand même.
Oui, mais le côté leader, mettez un chef, il nous faut un chef. Moi, je crois pas du tout qu'il nous
c'est
faut
un chef. C'est pas un chef, bon. Malcolm London, en l'occurrence, du tout. C'est un poète. Et un poète leader d'opinion n'avait pas vu ça depuis un bout de temps. C'est en tout cas ce que nous disait la revue Esprit du mois de janvier, qui a réservé un article au poète prophète. En France, par exemple, la poésie a quitté le réel. La voix du poète est devenue plus fragile, plus subjective, plus perplexe. La poésie moderne a quitté l'espace public. Faux, pourrait répondre Le Crieur, la revue de Mediapart. Les formes d'expression populaire de la poésie sur les sites, les blogs, les tweets connaissent un succès certain mais ne pèsent en rien sur le marché de l'édition. Et ça pourrait changer si on en croit un article des Échos aujourd'hui qui explique que la maison d'édition de Snoopy et de Calvin et Hobbes, Andrew Macmillan Publishing, a ressuscité depuis qu'elle édite des Instapoètes. Les Instapoètes, c'est les poètes d'Instagram qui se sont fait connaître sur ce réseau social comme Rupi Kaur, suivi par 900 000 personnes sur Instagram et dont le recueil Milk and Honey s'est déjà vendu à 1 million d'exemplaires, ce qui relève de l'ordre du miracle pour de la poésie. Et la poésie, ça n'est pas forcément formellement des mots qui riment et s'entrechoquent. Ça peut aussi être des histoires, comme celle incroyable racontée par Adeline Chemelon-Ramla dans la revue 21 de cet hiver, consacrée aux gens qui vivent la guerre au quotidien. C'est l'histoire du sculpteur Nizar Ali Bader, qui vit chichement avec sa famille dans un quartier très pauvre de Latakié, en Syrie. Quand le ministère de la Culture lui dit que son exposition est annulée, il se laisse convaincre par un ami d'organiser le vernissage sur le toit de son immeuble tout décati. Le vernissage fait un carton, le tout Latakié s'y presse. Un médecin dit par exemple, c'est stupéfiant que Nizar ait osé demander aux gens de se déplacer ici. C'est ici qu'il y a le plus de pauvreté et d'islamisme. Je peux parier que ses voisins sont des rigoristes de chez rigoristes. Quel endroit pour exposer des statues de femmes nues. Et puis le notable éclate de rire en disant, franchement, il est génial ce mec. À la 21 ans, tremble. C'est la première fois que je visite un atelier d'artiste. Je suis super heureuse d'être là. Et le responsable d'une revue culturelle sourit en larmes. Ici, j'ai oublié la guerre. J'ai retrouvé mon pays d'avant cette saloperie. Ça fait si longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Nizar vient de me faire le plus beau cadeau. Et puis il répète, le plus beau cadeau. Un reportage à lire dans 21.
21, Snoopy, Le Figaro, Mediapart. Vraiment, vous avez bien tout couvert. Merci Marie Missé. Gloire à Marie Missé.
Pardon.
Ça prend bien.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi. Non, là, pardon, mais je suis pressée, là.
Mais ça vient de sortir, ça de
hein je ne pense pas. Enfin, je ne suis pas certain.
Mais ça se trouve. Qui sont ces gens sympathiques mais...
Sophie Macneau et Colin Verdier.
Mais ils sont où, là
Obsession 68. Bah, où sont-ils
ce matin, ils sont où
chez eux, je ne sais pas. J'ai pas l'information.
Alors voilà la vraie information. Oui, Arnaud.
Je crois qu'ils tiennent maintenant un pédicure. Ils se sont reconvertis parce que ça n'a pas hyper marché.
Elle est pédicure.
Lui, Colin, ouais. Vit dans sa voiture, comme Jean-Claude Roman.
Il vit dans
sa voiture. Je crois qu'il croit à sa femme qui bosse. Elle reste 10 heures dans un parking.
À 14 ans, elle était championne d'équitation.
Oui, ouais.
Elle me doit de l'argent en plus.
Autre destin, Thierry Paré, 8h31.
Les suites de l'affaire Théo. Pas de tutoiement, meilleure formation des jeunes policiers, retour de la police de proximité. Des dizaines d'artistes énoncent des pistes pour mettre fin aux violences policières dans une tribune publiée dans Libération à paraître aujourd'hui. Et puis y a-t-il eu une autre bavure à Aulnay-sous-Bois ? En tout cas, une enquête préliminaire a été ouverte. Un ami du jeune Théo affirme dans l'Obs avoir été passé à tabac une semaine avant l'interpellation musclée du jeune homme de 22 ans. Il met notamment en cause le même groupe de policiers, au moins un d'entre eux, surnommé Barberousse. Le jeune homme raconte avoir été roué de coups durant plus d'une demi-heure. C'était le 26 janvier. L'Inde a lancé avec succès ce matin 104 satellites d'un coup. C'est un record mondial. Un record suivi en direct sur toutes les télévisions indiennes. Sur les 104 satellites mis en orbite ce matin, 96 sont américains. Kim Jong-nam, demi-frère du leader nord-coréen, est mort en Malaisie. Il aurait été assassiné à l'aéroport de Kuala Lumpur, empoisonné par deux femmes qui l'auraient aspergé avec un spray alors qu'il attendait un vol pour Macao. Les deux femmes qui sont en fuite sont présentées comme des agents de la Corée du Nord. Le CETA, le fameux traité commercial de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, doit être soumis ce mercredi après deux jours de débat au vote du Parlement européen. Ensuite, ce sont les parlements nationaux qui voteront ce traité. Porte-parole de François Fillon, député des Hauts-de-Seine, Thierry Solaire entend porter plainte en diffamation contre le Canard enchaîné. Le journal satirique affirme ce matin qu'il fait l'objet d'une enquête préliminaire, soupçonné entre autres d'avoir omis de régler une partie de ses impôts sur le revenu entre 2010 et 2013 et sa taxe foncière sur cette même année. Thierry Solaire, lui, affirme avoir toujours déclaré ses revenus et être actuellement à jour de ses impôts. Près de 200 000 personnes devaient évacuer leur domicile en Californie, menacées par les inondations. Finalement, l'ordre d'évacuation a été levé. Le barrage d'Oroville, qui est le plus haut des États-Unis, menaçait de céder suite aux pluies importantes de ces dernières semaines. Les autorités ont réussi à faire baisser le niveau de l'eau. Le PSG a un pied et quatre orteils en quart de finale de la Ligue des Champions de football. Les Parisiens ont écrasé Barcelone 4-0 hier soir au Parc des Princes. Match retour en Espagne le 8 mars. Ce soir, dans la même compétition, le Real Madrid reçoit Naples et Bayern Munich reçoit Arsenal. Et puis les mondiaux de ski. La France a été sacrée championne du monde de l'épreuve par équipe en battant la Slovaquie. Cette nouvelle discipline oppose des skieurs, hommes et femmes, sur des slaloms parallèles.
Merci mes invités de 8h33. Bernard et Bianca, bonjour.
Bonjour.
Black et Mortimer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes intervenant en foot, c'est-à-dire dès qu'il y a le mot foot, vous dites j'interviens. Ah, mais pour le moment, il n'y a pas de contenu.
Il faut le dire. Si c'est... vous dites le mot foot, moi j'interviens.
Vous intervenez.
Mais on intervient en même temps, ce qui fait qu'on ne comprend pas forcément.
Comment Bernard et Bianca ?
On essaye d'intervenir en même temps qu'on ne comprend pas ce qu'on dit.
C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est assez étonnant, c'est dès que des prononcés dans des informations le mot foot,
là, il part avec toujours une absence
de contenu flagrante quand même à chaque fois.
Moi, j'aime bien dire des phrases, mais oui. J'essaye de pas trop mettre de compléments d'objet direct.
Oui. Est-ce que c'est un métier, Bernard et Bianca, je m'adresse à vous là, qui est lié au départ à une absence d'emploi, un ennui à la maison, peut-être n'étiez pas encore assujetti à l'impôt?
Non, pas encore.
Et vous n'étiez pas propriétaire parce que vous étiez en sous-location.
J'étais en sous-location.
Chez une amie de maman.
Chez une amie de maman, oui. Ouais.
Et quant à vous, Black et Mortimer, vous êtes beaucoup plus...
Oui, beaucoup plus speed. Quand ma femme dit foot, je sors, je pars, je vais au bistrot, je bois un coup.
D'ailleurs, vous dites foot, je ressors. Alors, ça me donne envie de parler.
Oui, oui, exactement.
Je vais vous faire un petit intermède musical avec la bouche. Ne quittez pas. Ne quittez pas. Nous allons répondre à votre appel. Radio Nova, ne quittez pas. L'émission Plus près de toi va reprendre.
Moi, je pense qu'il fallait.
Ne quittez pas. Vous êtes bien sur Radio Nova.
I can't wrap up the robots.
Maintenant, un tout petit peu de gym parce que je suis.
Vous n'êtes pas réveillé, quoi.
Je sais pas ça.
Non, vous n'êtes
pas. Je suis sous antibiotiques, cocotte.
Les gens n'ont pas le savoir.
Si, ça intéresse.
Les gens n'ont pas
peut-être.
Votre santé. Excusez-moi.
Une très belle écoute de l'auditeur. Oui. Grégoire Bizot,
mal à une oreille.
François Fillon, avec. Enfin, un tout petit peu de gym. D'accord. Alors, si vous êtes chez vous,
allez.
On y va. Tout le monde chez vous.
Allez.
Bras droit, bras gauche. Jambe droite, jambe gauche. Nez droit, nez gauche. Front droit, front gauche. Et 1, 2, 3, 4, gym, 8h35, tu te réveilles, 8h35, c'est une merveille, 8h35, mon corps, c'est du zinc, 8h35, sans musique maintenant. Un film porno.
Oui, allez, je te ramène.
Ah non, pas Jack alors. Bon, bah on prendra Jack après. Pub.
7h-9h, plus près de toi.
Nova.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi.
Bah, j'y vais à pied, j'habite à côté.
Grégoire Bizot est en train de me dire tous les dessous de la politique. Je lui dis continue à l'antenne. Grégoire Bizot, qui est... combien d'années, Grégoire, que vous étudiez la politique?
Non, trop.
Trop?
Trop.
C'est vrai, c'est la dernière campagne?
Ah non, enfin celle-là, elle est quand même incroyable.
Elle est incroyable. Mais là, vous êtes à Libération en ce moment, vous avez toujours travaillé là ou pas ?
Non.
Vous avez commencé à quel journal ?
À l'Usine Nouvelle, je m'occupais des usines.
C'est vrai ?
Ouais.
Et puis il y a un changement. Et là, quand on est non, il me disait que la Fillon, ça devient trop trop. François Fillon, il a rencontré hier, il a calmé son, il a calmé les élus républicains.
Il a calmé. Non, enfin.
Il avait rendez-vous hier avec le bureau politique.
Ouais. Et si vous voulez être aujourd'hui être un élu LR, c'est un peu comme vivre en clandestinité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on parle tout bas, on chuchote, on évite tout ce qui ressemble à un micro, à une caméra. On parle, mais off intégralement. Et on vit quasiment à l'abri d'une campagne, ce qui est du jamais vu dans l'histoire politique française.
Parce que quoi, donc ils ont peur, et des journalistes, et puis les élus républicains, ils disent tout le temps, attention, ce qu'on entend sur le terrain, le fameux terrain,
le
c'est
fameux
épouvantable.
Terrain, oui, c'est assez épouvantable. Leur remontée, alors, les remontées des électeurs, de leurs électeurs.
Qui croient sur les marchés, tout
qui
ça.
Qui croient sur les marchés, ils se font engueuler. Il y a une forme, au minimum, d'incompréhension. On ne comprend pas comment une femme peut avoir été... avoir deux temps plein à des sommes qui, pour les Français, représentent quelque chose d'inimaginable. Ça, c'est évidemment la première chose. Et là, donc, au minimum, une incompréhension, voire une colère. Alors, c'est vrai qu'il y a un socle. On ne sait pas très bien l'évaluer aujourd'hui. Il y a un socle d'électeurs de droite qui a envie de sa victoire. Donc, oui. Celui-là, il est probablement incompressible. Mais, évidemment, la grande question politique pour tout élu LR aujourd'hui, c'est de se dire, ce socle, est-ce qu'il nous permettra ou pas de franchir la barre du premier tour ? C'est ça la grande question. Mais on voit, il y a quelque chose de... Alors, si ce n'était pas grave, ça serait un peu romanesque, mais on voit une forme de... Un homme engagé dans quelque chose de totalement impossible, une espèce de chemin de croix un peu violent, où il n'est tenu que par sa propre volonté, puisque tout le monde, hein, c'est ça qui est intéressant, c'est tout le monde n'espère qu'une seule chose, c'est qu'il accepte de lâcher. Tout le monde vous dit, aujourd'hui, le seul qui a la clé, c'est lui. Et il s'obstine, hein, comme un forcené, comme poussé par une espèce de... Bon, alors, l'homme politique est une psychologie particulière, comme vous le savez. Hein, là, on rentre dans quelque chose qui reste assez mystérieux, c'est qu'est-ce qui le fait tenir ? Il le fait tenir parce qu'il a été élu par 4 millions de votants. Et donc, il est parti comme ça dans une espèce de dynamique un peu messianique. Voilà. Et il tient. Il comme un forcené.
Ils ont la peau dure, les hommes politiques. Parce que même un homme politique élu à 51, 52, voire 55%, ce qui arrive rarement, les 45 autres pourcents ne sont pas indifférents. Le haïssent, quoi. C'est des gens qui sont habitués quand même. Non,
ouais. Alors ça, c'est vachement... Alors, c'est très, très important. Il y a quand même une question qui est sous-jacente, c'est... Mais pourquoi on peut se demander, mais pourquoi les grands chefs à plumes de LR ne se réunissent pas dans un café et disent « Bon, allez, écoutez, maintenant, t'es gentil, François, tu rends ton tablier et on passe à autre chose. » Ça, c'est la vraie question. Mais cette question, elle n'a pas de réponse simple. Elle n'a pas de réponse simple parce qu'un parti politique, c'est quand même pas un chef de, c'est quand même pas une bande de copains. Il y a des procédures démocratiques. Et donc, il faut trouver... Comment trouver un plan B? À partir du moment où vous avez une légitimité de primaire et que cette primaire vous a donné un potentiel vainqueur, bon, on peut se retourner vers le numéro 2. Et c'est là le problème, c'est que le numéro 2, il s'appelle Alain Juppé. Et Alain Juppé, bon, les hommes politiques sont orgueilleux, Alain Juppé l'est encore plus. Il a dit, moi non.
J'y reviendrai pas, Thomas.
Est-ce que la question, Grégoire Bizot, c'est pas justement de savoir quel grand chef à plumes va entrer dans le bureau de François Fillon pour lui dire c'est terminé et avec quel poids il faut aussi passer ce pas-là, enfin quasiment physiquement.
Ouais, c'est ça. Ouais, alors c'est ça. Mais encore une fois, il faut qu'il y a quelque chose de, il y a quelque chose d'un peu putschiste là, un peu de il faut aller contre, mais il faut aussi avoir une solution de remplacement. Et là, il y a une forme d'empêchement. Après, je voudrais revenir à ce que disait Edouard tout à l'heure. Et pourquoi c'est grave cette affaire? Pourquoi c'est grave? Au-delà, malheureusement, pour les gens de droite qui se retrouvent dans une situation d'une élection imperdable et qui sont en train de ils voient leur échapper, c'est que au-delà de la droite, ça crée, donc évidemment sur la classe politique, un discrédit absolument épouvantable et ça aggrave les sortes d'écœurement et de mise à distance de beaucoup de Français vis-à-vis de la politique et des élus. C'est la première chose. Mais deuxièmement, ça crée un ressentiment d'une violence rare et on le voit dans les meetings de droite. Côté droite, parce qu'il y a ce sentiment qu'on leur vole la victoire, on leur vole leur champion et que c'est la faute à la justice et aux journalistes. Et ça, quand les contre-pouvoirs sont conspués, c'est jamais très bon dans une démocratie, je pense, qu'on peut tous se retrouver là-dessus. Et aussi côté gauche, parce que côté gauche, c'est insupportable que quelqu'un qui, au minimum à manquer de probité, la plus élémentaire, se retrouve potentiellement au deuxième tour. Et pourquoi c'est très grave ça ? Ça veut dire qu'au deuxième tour, un potentiel deuxième tour avec François Fillon et Marine Le Pen, il y a fort à parier que beaucoup de gens de gauche n'iront pas voter. Et donc, évidemment, c'est mettre Marine Le Pen dans une situation presque de favori. Donc là, cette crise démocratique, elle est... Non, parce que c'est vrai qu'il y a un côté un peu vaudevillesque là-dedans, avec Pénélope, Sablé...
Et ça continue avec Solaire maintenant. Ouais, mais est-ce que... C'est vrai que faire campagne uniquement contre les juges et les médias, ça marche si on est Berlusconi et qu'on est propriétaire de plein de télévisions. Mais là, on sent bien que ça va, que ça s'enlise un peu. Est-ce que vous avez l'impression que l'impeccabilité, c'est une chose maintenant... Comment est-ce qu'on peut être impeccable ? Est-ce que n'importe quel homme politique est habitué à certains systèmes depuis 30 ans, peut-être même les plans B de la droite comme Bertrand ou le maire de Troyes, tout à coup n'ont pas aussi forcément des assistants, des trucs qui les empêchent d'y aller, des choses qu'ils ont oubliées, des impôts d'il y a 3 ans, des assistants qu'ils ont...
Moi, je trouve ça super grave, cette idée qu'ils ont tous quelque chose à se reprocher. J'espère pas. Enfin, moi, je suis un citoyen un peu basique. Et objectivement, les gens de droite qui côtoient Fillon, depuis très longtemps, sont tombés de leur chaise. C'est pas vrai que tout le monde a à la maison et leurs enfants, salariés et leurs enfants et leurs femmes.
Ça a choqué les Balkany.
Et vous
c'est vrai.
Ça a choqué les Balkany. Non, mais c'est pas vrai. Je pense que faut faire gaffe dans ce climat-là, d'accord, de pas accréditer l'idée qu'ils ont tous des trucs à se reprocher.
Non,
etc.
Mais des choses qui sont liées à des. Comme avant qu'il y ait la loi du financement des partis politiques, on sait bien que les systèmes étaient un peu étranges.
Oui, non, mais absolument. On voit bien d'ailleurs qu'il y a probablement quelque chose, un monde générationnel qui est en train de. On bascule dans quelque chose. On voit bien que l'affaire Cahuzac. Je veux dire, la droite et quelque part les citoyens peuvent dire aujourd'hui merci Cahuzac, parce que si Cahuzac n'avait pas été là, probablement Pénélope Fillon serait toujours salariée totalement en toute clandestinité de François Fillon. C'est quand même ça la morale de l'histoire. Donc c'est vrai qu'il y a probablement aussi dans les mœurs et dans l'organisation de la classe politique, là, un passage.
Ça se dénoue quand alors, Gawar Bizot ?
Alors, ça se dénoue, c'est très important.
Parce qu'il y a 15 jours, il a dit donnez-moi 15 jours.
Ouais, ça se dénoue dans très vite là. Très vite, puisque la justice, maintenant les cartes sont dans la justice, et la justice, le parquet national financier, a au moins 3 cartes dans sa main. Soit il fait quelque chose qu'il n'aura jamais fait, qui va être totalement inédit, il renvoie les protagonistes à un procès. C'est-à-dire qu'il dit, écoutez, moi j'ai fait mes investigations, procès. Voilà. Alors le procès n'aura pas lieu avant le premier tour, il aura lieu d'ici la fin de l'année. Et donc là, c'est terminé pour François Fillon. Soit il dit, il y a encore des investigations à faire. J'ouvre une information judiciaire. Je confie ça à un juge indépendant. Et là, il y a plusieurs possibilités. Hein, et il met en examen directement François Fillon, ce qui serait une rupture dans la pratique de la cinquième. Dans la cinquième, la justice a toujours dit « Je respecte le calendrier électoral. Je n'interfère pas dans la vie politique, etc. Donc, je ne mets pas en examen un potentiel candidat. Hein. » Mais bon... Elle peut ne pas le mettre en examen, le mettre en examen ou mettre en examen sa femme. Bon, et en fonction de ces options, je pense que là, il y aura un dénouement. C'est-à-dire que soit le fameux chef à plumes dont on a parlé, Thomas,
entre
dans son bureau et lui dit...
On
ne sait pas qui c'est.
Il a beaucoup
de plumes.
Hein. Oui.
Et il rentre dans son bureau et lui dit, écoute, là, non, allez, c'est terminé, maintenant...
Pierre Messmer.
François Fillon, le forcené, s'accroche. Et on est parti avec lui pour un long chemin de croix qui va nous amener collectivement.
Le retour de Giscard. Merci. Est-ce que vous avez de l'impeccabilité, vous tous là ? Qu'est-ce qui vous empêcherait d'être candidat à la...
J'ai pas envie d'en parler, mais je pense que ce serait pas net.
Grégoire, vous avez des casseroles ou pas ?
Moi ?
Oui.
Moi j'en ai tout plein, mais je préfère pas trop en parler.
Ah, c'est moche.
Moi ma femme, elle a une cocotte minute.
Oui, Atmen, la cocotte minute de ta femme a sauté il y a une semaine, on le sait. Ça va mieux à la maison ?
Oui.
Bon, enfin, en même temps, si tu es à la radio le matin, c'est bien parce que quelqu'un t'a foutu à la porte de quelque part à ce soir-là. Allez, à tout de suite.
7h, 9h, plus près de toi. De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi ?
Plus près de toi, je suis pressée là.
Atmen nous racontait des anecdotes sur Jacques Villeray, oui. Les bonnes anecdotes de tonton Atmen. Oui. Tito, normalement, à cette heure-là, au lac d'Ourthain, quand vous n'êtes pas avec nous à Paris, vous faites quoi? Vous prenez, quand il fait froid, là, vous prenez des remontants, des cordiales, vous avez des recettes?
Oui, on prend des remontants pour avoir le moral toute la journée. Même s'il pleut, on a toujours le beau fixe. Et vous savez ce qu'on fait? On prend des tartines de pain, on met du Nutella dessus, on appelle ça les tartines de Nutella-mour.
C'est vraiment typique, ça. C'est des vieilles traditions girondines. Merci vraiment. On est à Lyon, là. Merci.
Je suis en train de passer un entretien d'embauche pour être calorifugeur. Donc, j'ai la fiche de poste.
Calorifugeur.
Il faut que je sois mobile dans les différentes centrales nucléaires et que j'ai une attitude interrogative, madame.
C'est ça. Exactement.
Bonjour, madame. Une attitude interrogative, ça passe forcément par le langage? C'est des questions ou c'est l'œil vif, l'œil interrogatif?
Non, mais là, c'est une grosse blague, en fait.
C'est-à-dire?
Il ne faut pas être que ça, il faut être quand même mobile sur les centrales nucléaires. En fait, ça voulait dire poser les bonnes questions. Voilà.
Je vous sens mobile, madame. Calorifugeur, est-ce que déjà le fait d'arriver à le dire, c'est un premier pas vers l'emploi?
Exactement.
Est-ce que vous le placez parfois dans des dîners, en société ou à votre club d'aviron? Est-ce qu'on dit « qu'est-ce que tu fais en ce moment, Chantal ?»« Je suis calorifugeuse ». Est-ce que ça, en société, ça fonctionne?
Ça marche très très bien, très très bien, parce que c'est tellement dur à dire et tellement que les gens ne le connaissent pas, ce mot,
oui.
Que ça, c'est porteur au niveau social.
C'est vrai que c'est dans le top 3, parce que si on n'est pas dans « je suis kinésithérapeute conseil », ils vont dire « oh oui, d'accord, bon ». Si par exemple je suis proctoplombeur, bon, alors ça n'existe pas, mais calorifugeuse, et là le charme arrive, votre rire.
Exactement.
Délicieux, votre présence dans ce matin lyonnais, je vous vois, je vous imagine, et effectivement, ça, tout est rond, tout tient.
Oui, tout à fait. On est d'accord.
Là, vous partez en centrale, madame?
Non, je vais essayer de recruter quelques phénomènes dans le domaine.
Oui. Je suis là, moi je suis sur le bureau.
Vous êtes dans le monde de l'intérim, vous êtes dans le monde du travail, madame? De quoi s'agit-il? Où sommes-nous?
Exactement. Nous sommes à Lyon, cours Lafayette.
Et nous sommes dans un local ou nous sommes en rue?
Non, nous sommes dans une agence de travail temporaire.
Très bien, donc on peut travailler temporairement dans la calorifugeuration.
C'est ça.
Et qu'est-ce qu'il faut comme diplôme?
Eh bien, c'est là où le bas blesse, c'est que nous n'avons pas de formation en adéquation à ces profils-là.
Ah, mais c'est un truc à la... Oui, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Donc, vous n'en trouvez pas, puisqu'il n'y a pas de formation. Il y a le mot,
mais... On a beaucoup de mal, effectivement.
Mais est-ce qu'on peut arriver juste sur de la bonne humeur et avec l'œil interrogatif, et on peut obtenir cet emploi?
C'est possible, mais il faut être quand même assez ponctuel, c'est-à-dire se rendre sur les chantiers, c'est bien.
Donc, ça suffit? Pour être calorifugeur, il faut...
Ça ne suffit pas, mais il y a un petit peu plus de choses, parce qu'il y a des petits tests à passer, quand même.
Vous ne vous y risquez pas, madame?
C'est-à-dire?
Vous proposez cet emploi dans votre agence?
C'est ça, nullement je ne suis calorifugeuse.
Et vous n'avez pas eu de proposition d'homme qui veut aller vers la calorifugeuration?
Si, bien sûr, on en a.
Bon, bah, il faut...
La calorifugeuration qui commence à monter, là.
Pardon.
Et cette opération un jus, un job que vous lancez, on fait un jus d'orange et à travers... Non, c'était en 83, ça.
C'était pas avec nous. Hein.
Jack, souvent, comment se présente cette agence d'intérim? C'est sympa? C'est bien éclairé?
En tout cas, on est bien accueillis, hein, mais les employés sont arrivés, là, ils sont en t-shirt et tong, et ils attendent le client.
C'est ça.
Mais le client, non,
On a la bonne humeur, quand même.
Bon, et ça, voilà. On ne nous l'enlèvera pas.
Exactement.
J'avais vu l'affiche, en fait, dans la rue, transparente, calorifugeur et monteur d'échafaudage, donc je suis rentré.
Je me doutais bien qu'il y avait un truc comme ça. Jack, on vous laisse aller calorifuger. Merci, madame.
Merci, bonne journée.
Merci, très bonne journée. On est avec 8h56, l'invité de 8h56, Atmen, oui. Kelif.
Vous avez évoqué un jus, un job.
Un jus, un job, c'est une opération les années 80. Ouais. Où c'était
on était dans des grosses oranges.
C'était une grosse orange.
Comme ça, qui était en plein Paris.
Il y avait ça dans les rues de Paris. Et alors
qui se levait le matin, on ouvrait l'orange, donc elle se décollait comme ça, comme une soucoupe volante. On était à l'intérieur et on faisait des jus d'orange pour les gens.
Et
j'ai
normalement,
tenu une semaine, moi, j'arrêtais
normalement,
pas d'en
boire. Normalement, on devait faire des jus d'orange pressés. Oui. Et l'idée, c'était de créer le contact avec des éventuels employeurs. Voilà. Et comme ça, on trouvait un emploi.
Et les gens venaient vous voir et vous donnaient des CV. Parce qu'il y avait des gens, des hommes inouïe, d'affaires, ouais. Et tout. Et les gens prenaient beaucoup, beaucoup de jus d'orange. Beaucoup de...
Et vous avez eu un emploi grâce à ça?
Pas du tout. Ça me faisait mes heures. Enfin, ça faisait un petit peu d'argent de poche et tout. Mais j'arrêtais pas d'en boire. J'étais viré. Au bout de 15 jours.
Merci de ce témoignage.
D'accord.
On vous embrasse très fort. Bonjour.
Moi, j'ai été calorifugeur.
Présente-toi.
Pourquoi ?
Comment t'appelles-tu ?
Je m'appelle Moniacal.
Quelle est ta caractéristique physique ?
Je suis moitié pingouin, moitié homme et moitié chiffon.
Fais-nous ton petit jingle.
Tu es vachement directif.
Obéis-moi.
D'accord.
Jingle.
Mignon, mignon, mignon. Mignon, mignon, mignon. Mignon, mignon, mignon. Moniacal.
Bonjour, Moniacal. Tu as écouté l'émission ? Qu'est-ce qui t'a touché ? Je te sens tout ému.
Ben, j'ai un ami qui cherche du travail. Peut-être on aurait pu lui donner ce travail.
Quelle est son apparence extérieure ?
Il est... Je vous le présente si vous voulez. Tu viens ? Oui, d'accord.
C'est vraiment une voix différente.
Oui, bonjour, c'est Mickey. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de déboires en ce moment et depuis que Mini m'a quitté, j'ai plus trop de voilà d'espoir en l'avenir et puis depuis que Trump est passé, bon ben j'ai dû partir à cause du McCarthyisme. J'ai peur du McCarthyisme.
Tu es une petite souris.
Ouais.
Tu es un petit personnage de dessin animé.
Ouais.
Et de bande dessinée.
Ouais.
C'est pas facile dans la vie réelle d'être un personnage de fiction.
Ben non. Parce que une fois qu'on est dans, une fois qu'on a été admiré, après les gens ils, je sais pas, ils préfèrent Donald ou et après on a beau se balader dans les rues avec tellement, tellement de gens qui nous ont aimés, puis après plus rien quoi.
Plus rien. Est-ce qu'on t'a déjà parlé de ton niveau sonore ?
Quoi ?
Est-ce que tu es sourd ?
Il est parti. Il est parti. Bon.
Pourquoi n'a-t-il pas trouvé d'emploi, tu crois, Mickey, à Moniacal ?
Je sais pas, peut-être qu'il n'arrive pas à s'adapter à cette société parce que il est né dans les années 50 ou 20.
Mais peut-être aussi qu'il a une mauvaise écoute, je trouve qu'il parlait fort. Il faut
c'est
savoir.
C'est son problème, quand on est connu, on a une mauvaise écoute parce que les gens, ils vous aiment un peu, enfin, ils veulent vous aimer, puis après ils vous aiment plus, alors ils sont pauvres. Moi, quand je vois les gens connus, je me dis, les pauvres, parce que d'accord. Je me dis, bon, d'accord, là, ils sont contents, mais, oui, mais...
Il y a Mickey. Merci à Moniacal pour ce très beau billet, il est maintenant 9h. Tu vas rester avec Yacine mais et Thomas des 30 Glorieuses.
J'ai pas fini.
Toi non, mais l'émission hélas est terminée. On te fait un très gros bisou et on te laisse...
De mes amis les chiens épilés.
Les chiens épilés, ça sera le sujet de demain. À demain, Moniacal. Très bonne journée à tous.
Au revoir. Et au revoir les enfants.
À demain les enfants. Et soyez bien sages avec votre brosse à dents. Thierry Paré.
Édouard Baird.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.